Ce qui suit est un enregistrement de la conférence sur Linux embarqué donnée par Gilles Blanc à l'ENST le samedi 10 octobre 2009. La sonorité est médiocre, il manque malheureusement les toutes premières minutes de la conférence, et par ailleurs toutes les 10 minutes environ, le son s'interrompt pour 3 secondes en raison du fractionnement de l'enregistrement initial en fichiers faciles à manipuler. En dépit de tous ces défauts, l'ensemble devrait être compréhensible sans difficulté s'il est accompagné du diaporama de Gilles.
Catégorie là. Vous avez aussi l'automatique, c'est-à-dire en fait l'asservissement industriel, la machine-outil, j'ai des machines, et puis la robotique, ici le robot Nao, sur lequel j'ai pu aussi travailler, et qui est un robot sympathique, mais il coûte extrêmement cher, dans les 10 000 euros, donc j'espère tout de suite que ce sera vendu au grand public. Alors, l'avenir est en embarqué. Alors pourquoi l'avenir est en embarqué? Parce que l'informatique embarquée est partout. Donc je vis dans le consumer électronique, beaucoup d'appareils que vous avez chez vous, même dans les machines à laver, il y a du code, jusqu'au radar, c'est vraiment absolument partout, tout ce qui n'est pas PC grosso modo, et tout ce qui est intelligent avec beaucoup de guillemets. Et puis il y a des nouveaux marchés qui apparaissent, c'est-à-dire que non seulement on a déjà beaucoup de marchés à la base, mais en plus de ça, ça s'en rajoute. On a vu apparaître récemment les lecteurs multimédia portables. On voit apparaître aussi les disques durs multimédia, qui sont donc ces disques durs de 300 gigas sur lesquels vous mettez vos films, que vous branchez sur votre télé, et ensuite vous avez tout un tas de menus, tout un tas de possibilités dessus. Vous pouvez mettre vos films, votre musique, vos photos, etc. Mais d'ailleurs, forcément, il faut un operating system, un système d'exploitation qui va comprendre les différents formats, qui va faire l'interaction entre le matériel, donc en l'occurrence disque dur, les sorties vidéo, etc., et le logiciel, donc la lecture vidéo, la lecture multimédia. Et puis on va même apparaître des consoles de jeux portatives évoluées. Alors évidemment, la console de jeu, c'est très ancien, donc on a toujours eu du code dessus, du code d'ailleurs de gens qui étaient japonais, quoi, forcément, parce que c'était du code extrêmement complexe, avec un assembleur. Là maintenant, ce que l'on voit apparaître, ce sont des consoles de jeux vidéo, par exemple, qui vont pouvoir aller sur Internet. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément un browser, un navigateur Internet. Et un navigateur Internet, c'est pas petit, c'est quelque chose de très complexe. Donc forcément, il va falloir mettre ça sur un système d'exploitation. Le système d'exploitation le plus simple à trouver, ça va être Linux. Pas forcément, mais très souvent, ça va être Linux. Ce sont donc des marchés absolument gigantesques. Ça se compte en milliards d'euros, de dollars, pareil. Ignoré du grand public qui croit toujours, ben, par exemple, pour raconter une anecdote, j'étais en fait sur le salon du livre il y a environ 2 ans et demi. Et puis à l'époque, les nouveaux appareils qui viennent d'apparaître, c'est le tablette de lecture, vous savez, les livres électroniques. Voilà, livre électronique, donc avec une petite réglette qui permet de passer les pages. Et donc ben, je parle un petit peu, je demande quels sont les formats qui sont listés, etc. Et puis je dis, mais. Vous savez pas sur quel système d'exploitation ça tourne. Et là, la dame qui triste, forcément, elle n'a pas forcément énormément de connaissances en informatique, se retourne vers moi en regardant bizarrement, elle me dit, mais monsieur, c'est entièrement électronique. Donc évidemment, il y a un PDF de manière entièrement électronique, je vous laisse imaginer l'aspect des PDF et des 6 pages. Hein. Vous imaginez bien. Donc évidemment, d'ailleurs, j'ai appris plus tard que c'était sous Linux, voilà, ironiquement. D'ailleurs, j'ai dû mettre une photo sur la première slide. Alors, l'embarqué, en fait, se définit de manière assez complexe, puisqu'on a vu que ça pouvait tenir dans la poche, là, ok, on est d'accord, mais ça pourrait tenir dans une baie, ça pourrait être de l'industriel, ça peut être du temps réel, du pas temps réel. Donc, grosso modo, la manière la plus fine de définir l'embarqué, c'est finalement de le définir par rapport à ses propriétés. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être la contrainte. L'embarqué, c'est le monde de la contrainte. Donc on a une contrainte de taille mémoire déjà, c'est-à-dire que la taille mémoire peut être, elle est toujours bornée, ça c'est sûr, mais elle va surtout être petite. Alors petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un appareil très embarqué, ça ne va jamais dépasser les 2 mégas, et sur un appareil, sur une baie de stockage monstrueuse, ça va faire 30 mégas. Donc vous voyez qu'on est très loin des distributions qui font 2, 3, 4 gigas. Lorsque vous installez Windows Vista par exemple, vous êtes déjà à 5 gigas et vous avez le droit d'afficher le démineur. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Vous avez une contrainte de temps de réponse. Alors, temps de réponse qui peut être dur, c'est-à-dire qu'il va falloir absolument répondre, sinon ben, il va se passer des choses mauvaises. Ou alors, qui peut être, il faut répondre, mais il faut répondre rapidement. Dans tous les cas, lorsque vous êtes sur un téléphone portable, vous n'aimez pas que lorsque vous appuyez sur un bouton, ça met 3 secondes pour répondre. Ça peut arriver sur les téléphones sur une glace, mais je l'ai pas dit. Alors, contrainte de fiabilité, voire même de sécurité, parfois même très importante, des contraintes de ressources, d'énergie, d'autonomie, il faut que ça consomme peu, les choses portables du moins. Des contraintes d'architecture matérielle, c'est-à-dire qu'on va être sur d'autres architectures avec des composants électroniques que l'on rencontre pas du tout dans le monde du PC, de grande consommation. Des contraintes aussi de prix de développement. Alors ça, évidemment, ça ne nous regarde pas en tant qu'utilisateur, mais ça nous regarde nous en tant qu'ingénieurs. Du prix de développement, donc déjà pur, c'est-à-dire en fait les ingénieurs. Le matériel aussi qui va être mis à disposition des ingénieurs, et puis le coût des licences, donc des achats de systèmes d'exploitation qui ne sont pas Linux, forcément, qui sont propriétaires, et donc il va falloir payer à l'utilisation, au travail, c'est-à-dire en fait lors de l'intégration, parfois il faut payer 4, 5, 6 fois pour différentes raisons. Vous avez aussi des contraintes de prix de vente. Donc, c'est-à-dire l'amortissement d'une part, puisque en fait, vous faites un appareil embarqué de petite taille, vous souhaitez le vendre au plus grand nombre possible, votre but, ça va être d'avoir le coût le plus faible possible. Et donc, il va falloir calculer comment amortir, comment rentrer dans vos frais. C'est un petit peu aussi, c'est beaucoup ce qu'on trouve dans l'automobile, où on a des choses absolument délirantes, puisqu'en fait, l'automobile coûte quand même assez cher, on va dire. J'ai un ami qui travaille dans l'automobile du côté électronique, et on lui demande de faire il fait des phares avec des diodes, des LED, et on lui demande de ne pas dépasser un certain coût qui est en euros, c'est-à-dire même pas des dizaines d'euros. Et chaque euro ajouté à chaque composant, forcément comme il y a beaucoup de composants, à la fin ça peut faire très cher. Donc eh bien, il doit faire 3 euros, s'il fait 4 euros c'est la mort, mon Dieu, c'est terrible, il va falloir faire autre chose. Donc le problème d'amortissement est très important, et vous avez un problème aussi de royalties. Alors les royalties, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de payer à chaque fois, de payer le fournisseur à chaque fois que vous vendez un produit dans lequel vous avez intégré son produit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, un routeur qui marche sous VxWorks. Alors VxWorks, qu'est-ce que c'est? C'est un OS, enfin un kernel exactement, mais maintenant il a une partie où on peut mettre des logiciels, donc peut-être dire que c'est un OS, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, un kernel. C'est un kernel qui est vendu par WinRiver, qui a été fait par WinRiver, et vendu par WinRiver depuis la fin des années 80. C'est actuellement, avec Linux, ce qui est le plus embarqué dans le monde. C'est extrêmement petit. Mais alors, vous avez des licences pour l'intégration, c'est-à-dire lorsque vous travaillez dessus, vous payez déjà une licence. Lorsque vous l'embarquez sur un produit, vous payez aussi une licence. Alors, vous payez une licence par développeur, par lieu dans lequel vous faites le travail, par produit dans lequel vous allez le mettre. Et en plus de cela, une fois que le produit, donc le kernel est sur votre routeur, vous vendez le routeur, et bien vous devez encore payer VxWorks. C'était aussi le cas jusqu'à récemment, c'est en fait 2 ans maintenant, de Flash. Et en fait, c'est comme ça que Flash a gagné de l'argent, enfin Macromedia en l'occurrence, mais depuis Macromedia s'est fait acheter par Adobe, qui a décidé de ne pas faire de business dessus, ou du moins pas de business direct, puisqu'ils vendent quand même la suite de développement. Grosso modo, ce qu'ils faisaient, c'est que il y avait du Flash partout sur les sites web, etc. Donc, lisible par le PC, gratuitement, puisque le produit, le logiciel de décodage de Flash était donné gratuitement. En revanche, sur le téléphone portable, là, ça coûte 5 euros par appareil dans lequel on le met. Ça coûtait. Maintenant, c'est plus le cas. Mais il n'empêche que donc vous vendez le téléphone portable qui va aller sur Internet, eh bien, il faut racler. Voilà, donc c'est un modèle de business qui est extrêmement fort au niveau de l'industrie et dont on sort à peine grâce à Linux, en fait, grâce à la concurrence qu'apporte Linux. Involontairement, puisqu'en fait, Linux, c'est pas une personne, pas Linux Torvalds, ce sont les gens qui viennent utiliser Linux parce qu'ils ont notamment marre de payer. Et puis il y a enfin aussi, dans l'embarqué, beaucoup de contraintes juridiques. Peut-être que vous avez entendu parler de cette affaire-là. Il y a un salon sur lequel Creative avait des lecteurs MP3, des petits lecteurs MP3, et ils se les sont fait retirer de force parce que ben, il n'avait pas payé la licence pour lire le MP3 auprès de, alors auprès de qui d'ailleurs, auprès de Fraunhofer, Microsoft, Alcatel, on ne sait pas trop. En tout cas, j'ai oublié beaucoup de monde, mais même eux ne le savent pas. Quand je dis on ne sait pas trop, c'est qu'ils ne le savent vraiment pas eux-mêmes. En tout cas, je crois que c'était Fraunhofer qui n'était pas content, ou c'était Philippe, je ne sais plus. En tout cas, un bon concurrent, et il leur avait retiré leur lecteur MP3 embarqué puisqu'ils n'avaient pas payé la licence. Donc les contraintes de Linux sont quand même très fortes dans le monde de l'embarqué, et il est vrai que Linux rajoute encore un petit peu de problématiques puisque ce sont de nouvelles licences qui arrivent, et des licences libres. Alors, pas dans l'embarqué, oui, dans l'embarqué mais aussi à côté, il y a aussi donc une problématique temps réel, pendant temps réel, comme je l'ai écrit. C'est-à-dire que tout le système embarqué n'est pas forcément temps réel, mais ça se recoupe beaucoup comme problématique. Temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut répondre dans un temps imparti. C'est-à-dire, vous faites une action, communication qui arrive, il y a un bouton qui a été appuyé, etc. Il faut que le temps de réponse soit borné, et vous devez le garantir. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent. Les vieux ne parlent que de temps réel tout court, et en fait, le temps réel tout court est un petit peu renommé temps réel dur, pour dire que ben, c'est vraiment le vrai temps réel. Et puis, il y a un truc qui s'appelle le temps réel mou, qui est détesté par les anciens, n'est-ce pas, qui eux avaient l'habitude de faire d'automatique sur 800 kg et 2 mégas pour eux, c'est plus embarqué. Alors, c'est quoi le temps réel mou? Ben, c'est grosso modo, vous branchez votre Freebox, vous avez les images qui arrivent, elles doivent arriver 25 fois par seconde, sinon, ben, ça fait n'importe quoi, hein. Vous avez des décalages, etc. Le réseau tombe un petit peu en panne, il y a des images qui saccadent un peu, ben voilà, quoi, c'est plus garanti. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la plupart du temps, ça va marcher, mais il va y avoir un petit moment où ben, c'est pas forcément 100% garanti. Évidemment, sur un avion, on est en réel dur. Sauf avec les sons de pitou, apparemment. L'avion doit réagir. On a vu son commande, ça réagit. Une télévision, bon, ben, ça rate des images, personne n'est mort, enfin, je pense. Ou par exemple l'ABS. L'ABS en voiture, vous avez dû que ça réagisse. Sinon, là, oui, il y a vraiment des gens qui meurent. C'est mal. Alors, ce qui existe à l'heure actuelle, donc VXOS, je vais tous vous en parler. L'MSOS, qui a eu une grandeur de gloire chez les militaires, mais qui est en train de baisser parce qu'il est remplacé par du Linux. D'ailleurs, ils ne sont pas fous chez LinuxWorks. Alors, Linux, vous voyez, ils ont même renommé pour ressembler à Linux. Ils ont sorti leur propre Linux, qui s'appelle Blue Cat. QNX qui est un petit kernel OS embarqué qui pourrait faire vraiment gravement concurrence à Linux, mais qui a un petit souci de licence qui fait que ben, il n'y a pas eu autant de monde qui a travaillé dessus, et donc il n'y a pas autant de drivers, donc eh ben, c'est plus compliqué à mettre en place. Du coup, ben, ça n'a pas aussi bien réussi que ça aurait pu. Il y a un truc qui s'appelle ThreadX qu'on trouve par exemple sur les appareils photo, qu'on trouve aussi sur les imprimantes HP. Vous avez un RTX. RTX qui est en fait une couche temps réel sous Windows, c'est complètement fou, et je peux vous dire qu'en plus ça marche. C'est vraiment délire. En gros, il se met un petit peu sous Windows, il remplace son API par un API temps réel, il remplace son ordinateur aussi, et en plus on peut même switcher, donc choisir est-ce qu'on veut être temps réel ou pas. C'est délirant. Vous avez quelque chose qui s'appelle Nucleus, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mis sur les téléphones portables, qui est même encore mis sur les téléphones portables, mais alors en fait sur la partie communication. Mais plus sur la partie interface. La partie interface, on l'a fait avant, c'était en fait ce qu'on appelait les téléphones très moches, les années 90. Donc, vous savez, c'était en noir et blanc avec des menus sur trois lignes. D'ailleurs, à l'époque, il y a Nucleus, et puis il y a Symbian aussi, qui fait pareil que l'interface, contrairement à Nucleus qui fait la partie communication. Donc Symbian qui est rentré directement en conflit avec Linux et WinCE, Windows Mobile exactement d'ailleurs, et qui est en train de disparaître puisque Nokia a très clairement annoncé que Symbian était vraiment condamné à très courte échéance à mort. Vous avez les RTX qui est aussi un kernel temps réel, Windows CE, un petit peu la concurrence, OS 20, OS 21 qui sont des choses un petit peu mystiques de chez ST Electronics. Alors ST Electronics, donc c'est quand même très connu, hein, ST, ils ont fait ils font énormément de choses, notamment virer des gens. Quoique non, c'est aussi Freescale qui vire des gens, c'est ainsi. OS 20, OS 21, donc c'est en fait sur une plateforme qu'on appelle le SH4. C'est ce qu'on trouve sur les lecteurs de DVD, c'est ce que l'on trouve sur les décodeurs de type Canal+, par exemple. ou pas CanvaSat, je sais même pas d'ailleurs si ça existe encore ce truc-là. APKE, qui est un truc aussi complètement inconnu de chez Philips, même les gens chez Philips ne le connaissent pas forcément, c'est en train de disparaître. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont en voie d'extinction en réalité là-dedans. Et puis il y en a des centaines d'autres, vraiment beaucoup. Hein. Vous pouvez sur Wikipédia, j'ai pas mis la liste, zut, sur Wikipédia il y a une grande liste et il en manque. J'avais rajouté par exemple l'APKE, mais ils nous l'ont enlevé en me disant que c'était complètement inconnu et que ça ne devait pas exister à tout. Le point commun de toutes ces choses-là, là, c'est celle-là, c'est que donc, vous avez des licences abominables, vraiment des licences qui sont très compliquées, qui sont très longues, où vous devez payer beaucoup, surtout, avec des royalties, et puis il y a des performances, des capacités qui sont un petit peu en contradiction, alors il y en a qui sont en réel, mais qui sont beaucoup trop gros, il y en a qui sont pas en réel, mais bon, qui répondent pas à la problématique, etc. Puis bon, il y en a certains qui sont peu sur certaines architectures. Donc c'est très compliqué. Et finalement, ben, tous ces mondes-là, donc l'industriel qui avait l'habitude de travailler avec ce genre d'outils-là, ben, s'est dit qu'ils allaient peut-être voir un petit peu ailleurs, et le ailleurs, c'est tombé sous Linux. Alors Linux, en fait, pourquoi ? Ben, parce que c'était là, au bon moment, au bon endroit, en fait. Enfin, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, donc, qu'est-ce que Linux embarqué ? Donc, Linux, l'embarqué, on va marier les deux. Alors, en refaisant encore un petit peu d'histoire, on va remonter, en fait, donc, sur le projet GNU, qui a été lancé, donc, en 84-85 par Richard Matthew Stallman, puis ensuite par la Free Software Foundation, ce qui nous occupe, enfin, ce qui nous préoccupe beaucoup, nous, à l'APRI, forcément, puisque nous promouvons le logiciel libre. Donc c'est le lancement, c'est l'invention du logiciel libre. Alors, qu'est-ce que le logiciel libre ? Est-ce que j'en ai parlé sur les slides ? Non, donc je vais vous le dire. Le logiciel libre, c'est donc un logiciel qui donne droit, qui assure quatre libertés fondamentales. Et là, je ne veux pas que j'oublie une des libertés, sinon je vais parler mal. Alors la liberté d'utilisation, la liberté de voir les sources, celle de pouvoir modifier les sources, tout à fait, et les redistribuer, ce qui est important, puisque parfois vous avez le droit de modifier les sources, par exemple sur Nexus, mais pas forcément de les redistribuer, les sources, pas le binaire, heureusement. À la fin des années 90, on a un OS finalisé, c'est-à-dire qu'on a un compilateur qui s'appelle JCC, avec une suite d'outils qui s'appelle Winutils, on a une librairie C qui s'appelle glibc, on a Emacs, qui est le premier projet, qui est donc un éditeur, on a énormément de software, mais on n'a pas de noyau. Donc il y a un projet de noyau GNU qui est lancé, qui s'appelle le Herd. Et le Herd, ben, il se part sur des choses très bien pensées, de l'intelligent design cette fois-ci. Et en fait, ça n'aboutit à pas grand-chose, pendant très longtemps, et même à l'heure actuelle, bon, bref, c'est sujet à troll. En revanche, donc en 91, on a un petit étudiant finlandais là, qui commence à bidouiller de son côté. Alors il est finlandais, mais il parle le suédois. Bon, ça arrive. Donc en 91, par Mr. Valls, qui correspond en fait historiquement au lancement de la GPL V2. Alors la GPL V2 c'est quoi ? C'est la licence la plus utilisée dans le monde de GNU. C'est la General Public License qui ben, assure les quatre libertés fondamentales du logiciel libre et même oblige à redistribuer le code source lorsque vous redistribuez le programme compilé, le binaire. En 2001-2002, on a donc les premiers projets de Linux embarqué dans les télécoms. Les télécoms qui sont vraiment un grand moteur au niveau du monde industriel. Et puis en 2007, on a encore une modification du libre, en fait une adaptation du libre par rapport à la problématique embarquée. C'est ce qu'on a appelé, donc bah, c'est en fait la GPL V3, hein, donc qui succède à la GPL V2. Qui s'est mise à jour par rapport à une nouvelle problématique, et notamment aux problématiques de l'embarqué. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelait la TiVoization. Alors, qu'est-ce donc que cela ? En fait, TiVo, c'est un système de multimédia, c'est une set-top box, hein, vous l'avez chez vous, vous la branchez sur votre télé, et puis vous avez la télévision, et puis vous pouvez lire des films de chez vous, etc. Et ce qu'ils ont fait TiVo, c'est qu'ils ont embarqué du Linux dessus. Ils ont respecté la GPL V2 en donnant accès aux sources, mais derrière, il y a tout un système de chiffrement qui fait que ben, vous ne pouvez absolument pas vous servir des sources pour faire autre chose. Donc vous ne pouvez pas réutiliser le savoir de TiVo, vous ne pouvez pas faire appliquer des licences, vous ne pouvez pas faire appliquer l'esprit du logiciel libre qui voudrait qu'on ben, bidouille et on remplace et on fait évoluer. Et donc du coup, pour répondre à cette problématique-là, la GPL V3 impose maintenant de pouvoir faire justement évoluer le soft que vous avez distribué. Donc vous distribuez un matériel, dessus il y a votre outil sous GPLv3, et bien vous devez donner la possibilité de pouvoir remplacer cet outil-là. Donc ça va beaucoup plus loin encore que la GPLv2. Évidemment, dans le livre, ça a quand même une sacrée conséquence, parce que si vous mettez la GPLv3, par exemple sur un téléphone portable, ça veut dire qu'il va falloir donner la possibilité de modifier le téléphone portable. Vous voyez que ça commence à devenir un petit peu compliqué, ces histoires-là. L'étendue du livre, grosso modo, alors c'est environ des centaines de mille projets, je crois qu'on en est à 400 000, un truc comme ça. Il y a Black Duck qui a fait un recensement, donc il faudrait que je regarde sur Black Duck. Et peut-être sous GPLv2. Il y a une partie sous GPLv3, mais c'est essentiellement maintenant à l'heure actuelle de la GPLv2. Et donc, je viens de parler du projet GNU. On voit bien que ça dépasse de loin le livre, parce que GNU n'est qu'une partie en fait, du livre depuis le temps où l'idée du livre a été lancée. C'est pas seulement Linux, mais c'est vraiment du livre embarqué dont il faudrait parler. C'est-à-dire que vous avez notamment l'utilisation dans le monde industriel d'outils qui sont indépendants de Linux et qui sont libres et qui sont utilisés. Donc vous avez par exemple le compilateur GCC et le compilateur GNAT qui fait partie du GCC mais qui est développé indépendamment par une société française qui s'appelle Adacore, qui sont donc deux compilateurs, l'un multilangage et l'autre spécifiquement ADA, qui sont utilisés vraiment dans le monde industriel et pas forcément sur du Linux. Par exemple, si vous installez VxWorks, donc on a dit que c'était la solution qui est très chère et qui est faite par Winriver de manière très fermée et très difficilement accessible, même pour une école, si vous installez leur suite de développement, vous verrez qu'ils vont installer GCC. Ils vont même pas installer que GCC, ils vont aussi installer Eclipse et Cygwin. Est-ce que je viens de parler de Cygwin là-dedans? Zut, j'ai oublié Cygwin. Donc Cygwin, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire tourner des outils, des applicatifs qui d'habitude tournent plutôt sous Linux, mais ils vont les faire tourner sous Windows, tout simplement. Je parle aussi donc de la BusyBox, qui est le couteau suisse de l'embarqué, c'est-à-dire que c'est un programme qui embarque beaucoup de petits programmes, de petites utilités à l'intérieur, et qui est embarqué sur toutes les plateformes qui ont du Linux, mais même sur autre chose encore. Eclipse et GPS qui sont des IDE de développement. Alors GPS c'est quoi? En fait c'est la suite pour GNAT, pour ADA, pour faire de l'ADA. Alors Eclipse c'est pour le C, pour du Java évidemment, c'est pour Java à la base. Et c'est énormément utilisé dans le monde de l'industriel. Et ce sont des outils libres. Et pas forcément pour faire du Linux. J'ai aussi cité donc GDB qui permet de faire du débugage et OpenOCD qui permet de gérer le digital. Ubuntu dans les bootloader qui nous permet de lancer pas seulement Linux, et puis même on a même du BIOS libre qui s'appelle FreeBIOS, je crois que ça a été renommé, oui non c'est ça, FreeBIOS, et avant ça s'appelait Linux BIOS. Et la problématique du BIOS, c'est un truc auquel on ne pense jamais, mais on fait maintenant de l'industriel et aussi de l'embarquer sur de la plateforme PC de type x86, et on a parfois des problématiques d'avoir, lorsque l'on distribue ça à grande échelle, petite échelle, comme j'aime faire la pote, c'est-à-dire en grand nombre, de manière industrielle, de manière automatisée, on veut avoir certaines fonctionnalités qui sont activées par défaut. Eh bien, sur un BIOS standard, il vous est livré tel quel par votre fournisseur matériel, vous ne pouvez pas le changer. Donc, résultat des courses, si vous voulez vraiment le changer, il va falloir payer. Il va falloir payer beaucoup pour changer le BIOS. Donc des problématiques comme ça, donc comme le BIOS libre, peuvent être adaptées à des choses auxquelles on ne pensait vraiment pas du tout à la base. Donc je cite des exemples d'utilisateurs propriétaires, donc je venais juste vous dire Winriver. Il y a aussi LinuxWorks. LinuxWorks qui avec son XOS est allé encore plus loin, puisqu'ils ont codé, ils ont développé une compatibilité binaire entre Linux et leur OS historique, qui s'appelle LinuxOS. C'est-à-dire que vous pouvez compiler sur du Linux. Vous prenez votre binaire, vous le mettez sous LinuxOS, bon alors évidemment il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on ne va pas entrer dans des détails techniques compliqués, et le binaire va marcher à la fois sous Linux et sous Linux. C'est quand même fort. Au-delà de Linux encore, on peut citer ICOS, qui est un petit système d'exploitation qui va se présenter sous forme de blob, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir la partie kernel et la partie logicielle qui vont être coller, avec des gros guillemets, n'est-ce pas, dans un seul fichier que vous allez pouvoir envoyer et qui est très petit. Vous avez RTEMS, qui est un projet de kernel, temps réel dur libre, qui est fait dans une université dans le sud de la France, je ne sais pas laquelle. Vous avez OCaL4, OCaL4 qui est fait par l'université en Australie, via une société qui s'appelle Dicta, et qui est un système de paravirtualisation basé sur le noyau L4, qui est un projet qui est quand même assez ancien, et qui est totalement libre aussi. Alors totalement libre, oui et non, en fait, c'est-à-dire que le code SGPLV2, libre, oui, SGPLV2, mais ils développent eux-mêmes en interne un avance de phase et ne libèrent que lorsqu'ils considèrent que le produit est vraiment prêt. Donc du coup, c'est pas trop dans l'esprit de développement du libre. Et le problème que vous avez, c'est que du coup, d'une version à une autre, il y a beaucoup de changements, donc il y a beaucoup de travail de portage. Évidemment, eux-mêmes ils vendent derrière le produit, ils vendent plutôt le produit qui est en avance de phase plutôt que le produit qui est un petit peu plus vieux. C'est un système de business model qu'on retrouve dans le libre, notamment on retrouvait ça avec MySQL. Et puis encore au-delà du projet GNU, vous avez NetBSD et OpenBSD, donc qui sont des produits, qui sont des systèmes d'exploitation sous licence BSD. La différence entre une licence BSD et une licence GNU, c'est que sous une licence BSD, vous pouvez changer les termes de la licence, vous pouvez en fait fermer le code. Donc vous n'êtes pas obligé de redistribuer le code source avec votre binaire, ce qui est le cas de la GNU. C'est-à-dire que si vous achetez un téléphone portable sous Linux, votre vendeur de téléphone portable est obligé de vous donner un accès aux sources qui ont servi à monter le téléphone portable. En revanche, avec une licence BSD, ce n'est pas le cas. Alors souvent d'ailleurs, ils vous donnent accès à Linux et à la BizBox, et pas plus. Vous pouvez par exemple aller, vous avez un truc absolument délirant, si vous allez sur le site de Sony, vous pouvez chercher justement à voir les Linux qui sont sur la télévision, vous verrez que quasiment toutes les télévisions Sony actuellement sont sous Linux. Vous avez une très grande liste avec toutes les références de toutes les télévisions, de toutes les téléviseurs, pardon. Vous cliquez dessus, puis à chaque fois vous tombez sur quoi? Sur Linux, la BizBox, et puis c'est tout. Parce que tout le reste, grosso modo, c'est du logiciel interne à la société qui est développé par eux-mêmes et donc qui est fermé. Mais en revanche, ils respectent bien la licence et donc c'est une grande liste. Alors, il y a aussi, par-delà même l'aspect purement technique du système d'exploitation, j'aime bien sensibiliser sur les formats ouverts. Alors, les formats ouverts, c'est la grande marotte de Thierry Stoer, de formatsouverts.org, et qui dit tout le temps qu'il voit des formats partout, parce que les formats sont vraiment partout. Alors, les formats sont partout, et notamment dans la barquée. Dans la barquée, au niveau, par exemple, de l'échange de données, c'est-à-dire lorsque vous communiquez des données, je vais vous donner un exemple simple, RIM. Vous avez le BlackBerry de chez RIM qui communique avec votre PC pour faire de la synchronisation selon le protocole qui a été fait par Microsoft et qui est très fermé. Tellement fermé que, grosso modo, là, à l'heure actuelle, moi je travaille, je vais vous dire, pour l'Inagora. L'Inagora, qui est une société de services en informatique et éditeur aussi. Nous avons un logiciel qui s'appelle OPM et on pense à faire du rétro-engineering sur ce protocole de communication pour pouvoir communiquer avec des RIM, avec des BlackBerry, pardon. Donc, c'est pénible. C'est très pénible et d'un autre côté aussi, vous avez, sur le long terme, forcément, vous êtes perdant. Par exemple, je pourrais vous citer de manière hardware les câbles de téléphone portable, les câbles de communication avec les lecteurs MP3, qui ont tous des formats différents. Lorsque vous n'avez plus votre câble, lorsque vous perdez ou lorsque vous ne l'avez pas sur vous, vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas communiquer. Actuellement, ce qui se passe, c'est que... les vendeurs de téléphone se sont mis d'accord il y a 6 mois, du moins ils ont entériné ça de manière définitive. Ils vont tous faire maintenant du micro USB, donc il y a du USB d'un côté normal et de l'autre côté une petite fiche USB toute miniature, comme il y a par exemple sur les Motorola. Ce qui fait que tout le monde pourra enfin communiquer et ne pas chercher du câble à droite, à gauche, au milieu. Alors, vous avez aussi le stockage des données qui est important en termes de format. Alors, formats ouverts et formats libres. Un exemple, c'est que le MP3, j'en ai parlé tout à l'heure, le MP3 n'est pas un format ouvert. C'est un format qui est, qui n'est pas forcément fermé, parce qu'on a quand même des spécifications, mais qui est soumis à une forte licence, des licences sur plusieurs acteurs, c'est très compliqué. Derrière, si vous voulez faire un Ethereum P3, il va falloir payer tout un tas de gens. Le JPEG aussi, alors le JPEG oui, mais JPEG 2000 non, alors le GIF est aussi une histoire, etc. C'est très compliqué tout ça, alors qu'il existe des solutions libres et qui n'ont aucun problème d'utilisation, puisque nous avons dit, liberté fondamentale d'utilisation. Dans les systèmes de software, des formats ouverts, c'est tout ce qu'on appelle en fait l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, ça permet aussi, sur le long terme, d'ici 10 ans, vous pourrez toujours utiliser votre produit parce que le format est ouvert, il est connu et il est partagé. La pérennité, donc, et puis le coût aussi, puisque ça fait baisser le coût, tout ça. Si vous utilisez du HOLP plutôt que du SP3, vous n'aurez pas payé la licence, donc vous faites baisser le coût du produit. Donc, exemple en communication, le XMPP. Le XMPP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en fait Jabber. D'une manière, l'implémentation du XMPP s'appelle Jabber. Et Jabber, on va retrouver ça par exemple dans les scènes de communication sur des téléphones portables de chez Orange. C'est-à-dire que vous êtes sur, vous savez, le fameux Messenger. Alors Messenger, évidemment, ça appartient à Microsoft, c'est propriétaire, SFR c'est Messenger. Et puis Orange, à la base, utilisait du Jabber, et maintenant ils ont mis une plateforme en fait de communication avec Messenger, ce qui fait qu'ils communiquent de manière ouverte, et à la fin, si vous devez vraiment passer par Microsoft, ils font le petit pont. Mais entre eux, en interne, ils communiquent de manière ouverte. Et puis en audio et en vidéo, j'ai cité Outvorbis, donc le système audio, et puis Théora, sachant que là, encore, du côté de l'embarqué, il y a des problématiques qui se rajoutent, des problématiques de désencodage notamment, et c'est pas forcément gratuit. C'est libre, mais si vous voulez avoir une implémentation, l'implémentation elle est payante. Elle est vendue par Théora. Par Robis, pardon. Les images, j'ai cité JPEG, PNG qui est donc le pendant de JPEG, qui serait pendant de JPEG est libre. Alors, je vais peut-être accélérer parce qu'on est à 7.25. C'est terrible. Alors, pourquoi le libre? Eh bien, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure en filigrane. Il y a de nombreux avantages pour l'industriel. La technicité, c'est un petit peu l'argument du Storvet. Du Storvet dit tout simplement le libre, c'est le meilleur moyen d'avoir des choses techniquement les plus évoluées. Vous avez le coût, c'est-à-dire en fait ce qui intéresse les managers, baisser les coûts. Attention cependant, le libre n'est pas gratuit parce qu'il faut bien que les ingénieurs puissent se payer des belles chaussures et manger à la fin du mois. Donc évidemment, il faut payer les ingénieurs. Parfois, le coût des ingénieurs peut être supérieur au coût d'acheter un produit sur étagère. Donc c'est une problématique qu'il faut prendre en compte. Il n'empêche que de manière générale, les coûts sont abaissés par l'utilisation de logiciels libres. Vous n'avez pas de royalties, ça c'est sûr, donc c'est source d'économie directe et puis source aussi d'embêtement avec des licences. Et puis vous avez tout le système vertueux, si je puis dire, de pérennité et d'éthique, ce qui est un petit peu l'argument de Richard Stallman. Qui n'hésite pas à utiliser des choses très anciennes et très abominables parce qu'elles sont libres plutôt que d'utiliser des choses plus modernes parce qu'elles sont fermées. Alors évidemment, ceci intéresse très peu l'industriel, mais ça peut être quand même des arguments sur le long terme, et notamment Texas Instruments, que je citerai à la fin, a très bien compris leur avantage à ce niveau-là et font la promotion du libre de manière totalement ouverte, totalement active, notamment sur les salons où ils ont des flyers, pourquoi Linux c'est le bien, pourquoi le libre c'est le bien, etc. Ils ont fait ça de manière totalement autonome et par eux-mêmes. Actuellement, donc, nous avons une grande suprématie de la GNU-GPL dans l'embarqué, ce qui a donc pour avantage, comme je vous le disais, de rebrasser les sources, puisque dès que vous modifiez un programme GPL, si ensuite vous distribuez le binaire, vous êtes tenu de distribuer aussi les modifications. Donc, ça augmente l'évolutivité, et on a bien vu que l'évolutivité de Linux avait été renforcée, notamment par le travail de Monta Vista. Et en revanche, les conséquences, c'est que ça rajoute une problématique que l'industriel ne connaissait pas, puisque l'industriel travaille dans un milieu, dans un esprit très fermé, très propriétaire, où on réinvente la roue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un nouvel applicatif chez Thales, on faisait de son carnet. Donc il y a des carnets qui traînent dans tous les sens. Là maintenant, ça veut dire qu'il faut repenser, il faut changer de philosophie. Et puis donc, vous avez cette problématique-là dans la GNU-GPL qui est posée, c'est le copyright et le copyleft. Qu'est-ce donc que cela? Le copyright, tout le monde connaît, ça va, on a même Adopi pour me rappeler ce que c'est. Et puis le copyleft, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous donnez le droit à n'importe qui de pouvoir et rajouter son propre copyright, son propre travail dans le, au vôtre. Et donc, de se rajouter au projet, de pouvoir faire, de pouvoir suivre sa voie. Ce qui veut donc dire que pour un industriel, son concurrent peut très bien récupérer ce qu'il a fait lui-même, et puis rajouter son propre travail et le redistribuer. Ça a traumatisé beaucoup de monde pendant très longtemps, mais finalement, maintenant, ils ont compris un petit peu leur avantage, et donc ils se sont organisés en consortium. Donc vous avez des consortiums Linux, par exemple, dans la téléphonie mobile, il y avait même jusqu'à 3 ou 4 consortiums en même temps, ils sont en train de se regrouper dans un seul consortium, et puis il y en a d'autres dans l'informatique, dans le monde du hardware, au niveau des microprocesseurs, et puis il y en a encore, etc. Des gens qui s'organisent par pôle de compétences, en fait, sur des problématiques, sur la problématique du libre. Alors pourquoi Linux? Ben, je dis, en fait, il tombe bien au bon moment, au bon endroit, parce qu'il est donc libre sous GPL2, il évolue fortement, il n'y a pas de royalties, il y a des sources gratuites, il y a beaucoup de points forts techniques. Et puis, sur quoi il va pouvoir être mis? Il peut être mis en fait sur quasiment tout, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à n'importe quelle problématique. Alors évidemment, après c'est la question du prix. Si évidemment le prix est trop fort, ou si il y a une meilleure solution, on ne va pas le choisir. Mais de base, on peut le réadapter pour répondre à l'ensemble du marché. C'est-à-dire en fait du très enfoui, du très spécifique, du très industriel, jusqu'au consumer électronique, c'est-à-dire en fait le téléphone portable, l'assistant personnel, etc. Alors, même au niveau du temps réel, je parlais donc de différents temps réels mou ou durs, eh bien Linux peut répondre aux deux. De base, on le considère comme temps réel mou. Mais il existe des patchs, il existe des solutions, il existe des solutions de virtualisation, plus ou moins, de co-noyaux, qui le rendent en temps réel dur, et même temps réel très dur, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on peut arriver quasiment au même performance que VXOX à l'heure actuelle, et comment est-ce que ça s'appelle déjà, Concurrent Computers, qui fait une solution qui s'appelle Redhawk, a embarqué du Linux sur du missile qui est quand même à très forte contrainte de temps de réponse, puisqu'il ne faut pas trop que ça explose de partout quand il. Alors, hop. Mais en fait, en réalité, c'est un petit peu l'ABC, c'est un petit peu particulier. Alors, les points forts de Linux, donc. Alors ça, c'est un petit peu technique, on va peut-être passer vite, parce que ça ne vous intéresse pas forcément. Alors, il y a une faible empreinte mémoire par rapport aux capacités. Alors, j'insiste bien par rapport aux capacités, parce qu'évidemment, les vieux de la vieille, quand on leur dit que rien que le noyau il va faire dans les 2 mégas, 5 à 4 mégas, ils font une crise cardiaque. Parce que bon, les vieux de la vieille, ils travaillaient avec au maximum 200 kg, quoi. Il ne fallait pas dépasser 200 kg de RAM. Alors maintenant, 2-3 mégas pour eux, c'est. Alors maintenant, il faut surtout leur dire qu'on a 1 giga de RAM parfois sur le téléphone portable, parce que sinon, je pense que c'est la fin pour eux. Alors, il est efficace, il est optimisé, il a de fortes performances, notamment en termes d'uptime. L'uptime, c'est quoi? C'est le temps de redémarrage nécessaire on utilise le noyau, en fait, au bout d'un moment, il devient plus ou moins instable parce qu'on a mis des softs, etc., qui ne sont pas forcément terribles. Linux est très solide à ce niveau-là. Bon, je ne veux pas parler de la concurrence chez Windows, mais vous aurez bien compris que c'est pas pareil. Userland. Alors, Userland, c'est quoi? C'est toute la partie logicielle utilisateur qui est efficace, c'est-à-dire que les logiciels qui tournent sont rapides parce qu'il y a une problématique en fait entre les logiciels du côté utilisateur et toute la partie noyau, des problématiques en fait de communication entre de communication système. Il va être très compliqué de t'expliquer en 2 minutes chrono. Notamment dans l'userland, nous avons le support du Java. Et alors Java, qui est quand même un truc assez abominable à la base, a fait une partie embarquée qui s'appelle le JDME, qui servait à faire des petites appelettes, vous savez, il y a 5-6 ans, faisait des petites appelettes rigolotes avec, enfin rigolotes, plus ou moins ennuyeuses, des jeux notamment. Et maintenant, on fait carrément l'OS sous Java. Ça s'appelle Android. Google qui a lancé ça, toutes les applications sont en Java. Alors évidemment, ça prend une place mémoire absolument monstrueuse. J'ai déjeuné avec un ancien chef récemment qui s'est lancé là-dedans. C'est-à-dire que son business model, c'est de faire que de l'Android maintenant. Il est semi-indépendant. Ça prend une place abominable mémoire, mais comme on a une explosion des capacités à la fois de temps de calcul et de stockage mémoire à l'heure actuelle dans l'embarqué, ça pose moins de problèmes et ça permet, en bouffant beaucoup plus de mémoire et de cycle CPU, de pouvoir faire des choses plus compliquées, plus accessibles à la majorité des ingénieurs. Parce que forcément, les ingénieurs embarqués, on est assez peu nombreux, c'est une minorité de personnes. Alors, des gens qui vont aller pouvoir faire des applets, des petits programmes sous Java, ça va se trouver beaucoup plus facilement. Donc ça abaisse le niveau d'entrée en termes de création de logiciels dans l'embarqué. C'est donc modulaire, c'est paramétrable très finement, contrairement par exemple à un système BSD où tout est mis dans un seul fichier texte en vrac. Si vous avez l'occasion d'aller voir un système BSD, ça fait très très peur. Vous regardez le système de configuration de la compilation. D'ailleurs, si vous allez même sur la forum question d'OpenBSD, vous dites surtout n'y touchez pas. D'ailleurs, c'est absolument très drôle parce qu'il y a le titre comment faire pour changer la configuration. Alors, réponse numéro 1, vous n'avez pas besoin de changer la configuration. Réponse numéro 2, si vous le faites vraiment, ça vous espérez qu'on ne va rien entendre parler, vous ne venez même pas sur la même liste pour vous en plaindre. Donc évidemment, pour le marqué, c'est quand même pas terrible. En revanche, Linux, c'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est vraiment fait pour être paramétré et dire ce que l'on veut et dire ce que l'on ne veut pas. Si on n'a pas de Bluetooth, on ne met pas le Bluetooth. Si on n'a pas de Wi-Fi, on ne met pas le Wi-Fi. Pourquoi sur là, on le met. Alors, vous avez aussi, alors bon, là, on va peut-être se tester le lien, c'est trop technique. Hop, vous avez beaucoup d'outils disponibles, de bibliothèques, etc. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui va arranger la vie du développeur. Le développement, ben, donc, il est, hop, très, il est beaucoup plus facile que ce qu'on avait avant. Et puis, ben, vous avez des supports de Bluetooth, du multimédia, du réseau, du Wi-Fi, etc., qui sont natifs. Vous n'avez pas besoin de payer du développement externe, de payer des modules externes, etc., comme c'était le cas auparavant. Ah oui, donc vous voyez aussi, là, j'ai une petite image, c'est rigolo, Haptech, ici. Ça, c'est un truc de lx1.linux.no, j'en parle à la fin dans la webographie. Lx1.linux.no, c'est un projet qui vous permet de vous balader dans n'importe quelle version du Linux, dans n'importe quelle version du kernel Linux, au niveau des sources. C'est-à-dire que vous avez, donc vous choisissez votre version, et puis vous avez l'ensemble des sources, qui sont quand même assez conséquentes. Hein. Et puis vous avez des liens qui vous permettent de cliquer sur les fonctions, sur tous les symboles en fait, et donc vous baladez dans les sources. C'est ce genre de petits outils qui sont faits de manière indépendante par des gens, qui a fait ça, et qui vous arrangent énormément la vie, et qui révolutionnent aussi la manière de travailler dans l'industriel, puisque bon, avant, grosso modo, qu'est-ce qu'on faisait? On allait payer quelqu'un qui allait nous fournir une solution sur étagère, et puis bah, on avait une pauvre doc avec. Là maintenant, bah, on n'a pas de doc fournie avec, il faut aller chercher la doc, mais la doc elle est faite de manière totalement différente et de manière assez originale par beaucoup de gens. Alors, Get the Facts, vous savez, c'est le titre d'une note Windows, de chez Microsoft, pardon, Get the Facts. Peut-être pas si jeune, trop vieux, je sais pas. Ça parle personne, tu fais des super blagues là, mais c'est une merde à con. Alors, dans l'embarqué, on a assez peu de données super fiables en fait. Pourquoi ça? Parce qu'on a une culture du secret industriel, parfois c'est même militaire, donc les militaires n'aiment pas trop parler de ce qu'ils mettent en place. Sauf lors des salons, vous savez, il y avait un salon par exemple militaire voilà, sur les Invalides, et vous pouvez voir les petits Linux qui avaient un petit peu de partout, c'était assez rigolo, notamment sur des robots militaires. Mais c'est d'une manière générale, c'est pas le genre de personne à qui vous téléphonez pour leur demander ce qu'ils ont mis en place. Vous avez aussi des projets en cours, tout le temps des projets en cours qui ne sont pas finalisés, donc bon, c'est assez difficile de savoir si oui ou non on les compte. En revanche, donc, on a une étude qui date de 2007, qui est un petit peu vieille, mais est en train d'être réactualisée pour l'étude 2009, qui a été faite par linuxdevices.com. Donc vous pouvez trouver cette adresse-là, donc ben, je leur ai piqué leur slide, j'ai le droit également, j'ai vérifié. Les salons, en tout cas, si vous allez sur les salons, eh bien on voit un intérêt croissant, alors croissant, mais qui maintenant commence à stabiliser tout de même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie du marché. C'est-à-dire qu'à 3 ans que vous arriviez, vous avez des pingouins de partout, c'était vraiment, il y avait des conférences, c'était des trucs révolutionnaires qui avaient tout changé. De 3 ans, donc des bêtises, je ne sais plus où c'est ça en fait, il y a 5 ans. 5-6 ans, vous aviez des pingouins partout. Vous avez sur le salon RTS, par exemple, Real Time Show, je ne sais plus, RTS qui est en avril, eh bien, vous aviez des Linux, vraiment, vous avez des pingouins. Enfin, moi, j'ai gagné des pingouins en plastique, des trucs comme ça. Maintenant que vous y allez, ben, vous n'allez plus trop voir en fait, Linux. Quoi. Ça va être parfois c'est écrit, parfois non. Vous allez voir les gens, en fait, vous dites, mais vous supportez Linux? Et vous dites, bah ouais, évidemment, ça fait 5 ans qu'on l'en fait. Quoi. Enfin, c'est normal, c'est tellement normal maintenant qu'on ne le cite plus. Ça fait vraiment partie du paysage. Alors pourquoi ça fait partie du paysage? Parce que voilà, vous voyez, ça a eu un certain succès, on va dire. Quoi. Alors, un certain succès qui fait que, ben, du coup, Sur les marchés, le Pomexos qui avait 70% du marché quasiment s'est retrouvé à 10% et le NYX à 50%. Ceci dit, pourquoi? Il faut bien voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une explosion des nouveaux marchés dans l'embarqué qui fait que ces nouveaux marchés-là ont plutôt choisi du Linux pour des questions notamment de time to market à réduire, c'est-à-dire aller très vite pour sortir une solution. Et donc, ils ont plutôt eu tendance à choisir Linux, ce qui fait que ça a artificiellement fait monter la cote de Linux, alors qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup moins de Vexwax embarqués. Ceci dit, Vexwax a quand même connu un fort recul qui a fait que WinRiver a lancé sa propre solution de Linux et qu'ils ont lancé l'année dernière leur propre solution de virtualisation pour pouvoir faire des migrations depuis Vexwax vers Linux progressive, notamment par exemple chez BMW au niveau de leur poste de radio qui fait aussi GPS. Ici on voit encore les gens qui ont prévu en 2007 de faire du Linux et qui en font déjà depuis 2 ans. Donc, grosso modo, on va voir maintenant si ça suit bien les prévisions dès qu'on aura la nouvelle étude. Alors, Linux, comme on a dit, c'est un projet libre. On tient un petit peu compte de l'embarqué, mais ce n'est pas le sujet primordial lors du développement. On a dit qu'il y avait beaucoup de distributions. Résultat des courses, on a beaucoup de choix lorsqu'on est industriel de mettre du Linux sur du système embarqué. Donc, grosso modo, il faut se poser une question, c'est quelle est ma problématique? Est-ce que j'y réponds avec Linux, déjà de base? Et si j'y réponds avec Linux, quel Linux choisir? Est-ce que je choisis un Linux qui a été fait par des gens de manière commerciale, c'est-à-dire en fait ils ont fait une solution sur étagère que je vais choisir, hein, du prépackagé? Il y a des sociétés qui font ça, vous allez les voir, vous allez payer 4-5 000 euros, et puis ils vont vous donner le CD déjà prêt à l'emploi, et puis si vous payez un petit peu plus, ils vont même vous le faire, vous le réadapter pour que ce soit répondre exactement à votre problématique. Ou alors, est-ce que je le fais de manière moi-même, en téléchargeant sur Internet tous les paquets un par un? Il y a des solutions qui font ça. Ça s'appelle OpenEmbedding. Vous pouvez y aller. Vous pouvez donc avoir une solution simplifiée. C'est quand même beaucoup d'agir. Mais donc, qui n'est pas payante. Est-ce que j'ai du temps réel mou? Est-ce que je mets du pas de préemption? Est-ce que j'ai du temps réel dur? L'offre peut sembler parfois un petit peu contradictoire, c'est difficile de s'y retrouver, parce que justement, c'est parce qu'il y a peut-être un petit peu l'embarras du choix, quoi, grosso modo. Trop de choix tue le choix. On a aussi le packaging qui a un avantage en fait. Alors, un avantage pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des logiciels qui sont sous forme de fichiers simples. Vous les prenez, tac, vous les installez, ça marche. Mais le problème, c'est qu'il faut les faire, ces paquets. Donc du coup, est-ce que vous utilisez par exemple Debian qui a déjà fait des paquets, ou est-ce que vous faites tout ça vous-même à la main? Auquel cas, ça risque de vous coûter cher. Ça peut même parfois coûter très cher et ça peut même parfois devenir très abominable lorsque vous voulez faire des mesures, lorsque vous voulez patcher de votre côté, lorsque vous avez des problématiques de sécurité, vous voulez mettre à jour la sécurité, etc. On peut vite se prendre des pieds dans le tapis. Évidemment, du coup, ça peut faire que votre solution peu chère, qui était Linux, va devenir une solution chère parce qu'il faut payer une équipe d'ingénieurs derrière. Alors, distribution actuelle et tendance, hop, on la voit juste après. Tadam. Alors, est-ce que vous êtes prêt à payer? Alors, les gens disent ouais, je suis prêt à payer parce que c'est vachement compliqué quand même Linux. Mais ceci dit, est-ce que vous avez payé? Non, en fait, parce qu'on est quand même des radins. Donc, vous avez une contradiction tout de même dans le monde industriel qui se cherche encore un petit peu. Ce qui fait qu'on n'a pas tant d'acteurs que ça qui proposent du Linux embarqué. Je suis bien placé pour le savoir d'ailleurs. Alors, l'Inagora fait évidemment du Linux embarqué, hein, donc si vous avez le projet, nous sommes là. Ici pareil, vous voyez, est-ce que les gens qui ont acheté une solution sur étagère, ils sont beaucoup moins nombreux que les gens qui ont fait ça à la mine par eux-mêmes. Évidemment, l'avantage de faire ça par soi-même, c'est de garder le contrôle absolu et total, hein, de toute la production et de savoir ce qu'on a mis dedans. Alors, vous êtes sûr et certain. Le désavantage, c'est que c'est forcément plus cher à l'arrivée. Qui va faire du Linux embarqué, vous allez le trouver, je sais pas, entre 700 et 1 000 euros quoi, par jour. Donc vous voyez bien que payer 5 000 euros pour avoir une solution directement préconçue, ça serait l'équivalent d'avoir fait travailler un ingénieur pendant une semaine et demie. quand on sait le boulot que c'est, notamment en termes de compilation, pour faire du Linux embarqué de A à Z, voilà, il faut tenir compte de ce genre de problématique-là. Alors, ici, donc, qu'est-ce que vous comptez utiliser comme outil de développement? On voit bien que, encore une fois, il y a un aspect du tout libre, qui est en prendre du Linux, qui est en prendre du Eclipse, grosso modo. Et du GCC et du GDB. Parce qu'évidemment, le GCC est en fait un compilateur, hein, mais il est loin d'être le seul. Les compilateurs embarqués propriétaires, il y en a beaucoup. Il y en a au moins autant que des solutions de microprocesseurs. On peut par exemple citer ARMCC. Il y a même deux suites chez ARM. Vous avez RealView et ADS. ADS c'est le vieux et RealView c'est le nouveau. Donc ARM, je vous rappelle, c'est ce qui tourne sur le téléphone portable. Alors, un existant sous Linux, eh bien, vous avez tout simplement ce qu'on appelle le out of the box, c'est-à-dire en fait, grosso modo, vous n'avez pas besoin de vous tracasser, ça existe déjà, c'est déjà fait. Debian, donc j'en ai parlé en début de la conférence, Debian qui est donc porté sur 14 architectures de mémoire, ou peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'il y en a certaines qui se sont dit que c'était vraiment trop vieux, que personne ne les avait, et que ça faisait beaucoup de boulot pour rien. Debian, par exemple, qui compile pour ARM, directement sur des serveurs ARM, c'est-à-dire qu'ils ont des microprocesseurs ARM dans un serveur avec plusieurs cartes de développement dessus, et puis ben, ils font pas de cross-compilation. Ils font directement la compilation native pour ARM sur du ARM. Vous avez aussi Red Hat et Fedora qui sont utilisés dans le monde industriel sur des cartes de type PC. Alors, ce que j'appelle le prêt à embarquer. Alors le prêt à embarquer c'est quoi? C'est OpenEmbedded, c'est Winriver, Sysgo. Alors OpenEmbedded c'est communautaire, Winriver, Sysgo ça va être des choses payantes, Linuxox etc. Là il y a pas mal d'acteurs, mais ça reste stable et il n'y en a pas tant que ça non plus, c'est pas démentiel. Vous avez ceux qui sont en réel, chez MontaVista, chez Concurrent Computing. Et puis vous avez aussi tout un tas d'environnements adaptés, c'est-à-dire Maemo sur Nokia. Donc c'est-à-dire, un environnement c'est quoi? C'est un environnement graphique par exemple, quasiment tout le temps. Avec du click and drop, des boutons, des menus, des applicatifs qui vont avoir un certain look and feel. Donc Maemo, OpenMoco, qui est donc un projet libre de téléphone portable, mais qui est un petit peu ensablé. Sugar, qui est le projet, vous savez, One Laptop Per Child, OLPC, le PC à 100$ qui finalement fait pas 100$ et qu'on ne sait pas trop ce que ça devient. C'est un petit peu aussi pris le pied et dans le tapis. Moblin qui est une solution qui a été initiée par Intel et qui vient d'être refilée à. Alors, qui a été refilée à qui à Ubuntu. Non, c'était Intel et Ubuntu, et ils viennent de refiler ça à la Linux Foundation, si je ne m'abuse. Donc, qui a pour but de faire un environnement pour tablette PC notamment. Et puis, on peut citer encore les deux majeurs, Qt Embedded. Alors, Qt Embedded qui était fait par Trolltech. Qui a été racheté par Nokia. Pourquoi est-ce que Nokia, qui fait le téléphone portable, rachète Trolltech, qui faisait Qt, qui était plutôt desktop à la base, notamment KDE, qui est donc le système de fenêtrage que j'utilise là actuellement, pourquoi est-ce qu'ils ont racheté par rapport à Qt Embedded, qui est donc la solution embarquée, et pour pouvoir remplacer en fait à terme, très clairement, tout ce qui est Symbian. Parce que pour l'instant, donc, ils utilisent toujours Symbian, donc ils vont tout faire migrer sous Linux avec du Qt Embedded. Donc ils ont carrément racheté la boîte. Et puis Android, qui est donc la solution Google, hein, j'en ai parlé vite fait, donc solution Google sur du Java, licence Apache, qui est un petit peu de type BSD, mais qui donne en plus de ça, qui se prémunise contre les brevets logiciels en fait. Ce qui est important aux États-Unis, cette problématique-là des brevets logiciels. Donc pour ne pas avoir d'ennui, la licence Apache est prévue pour ça. Donc du coup, Android, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir fermer les sources. Ça ne va pas forcément faire beaucoup évoluer le public. Google développe ça encore en titre plus ou moins ouvert. C'est un petit peu compliqué d'avoir. Enfin, c'est un petit peu opaque quoi. Mais il n'empêche que c'est une solution pour laquelle on peut avoir les sources, donc sous une licence libre a priori, et qui commence à avoir des. Je crois qu'il y a 5 téléphones pour l'instant qui sont vendus sur Android, mais on devrait en voir apparaître beaucoup plus prochainement. Alors, la solution. La solution facile pour faire de l'embarquer, ça devrait être par exemple de prendre une carte VME. Alors VME c'est quoi? C'est un format de communication, de fond de panier. Je ne sais pas si ça présente beaucoup ça en fait. C'est un connecteur, c'est une connectique qui est, ensemble, qui est grande comme ça, qui se met au bout d'une carte et que vous pouvez après les mettre dans un rack. Voilà. C'est assez peu connu maintenant en fait, c'est de moins en moins connu, de moins en moins enseigné, mais c'est toujours très présent dans l'industrie. Donc vous prenez une carte de compatible, X86, PC, PowerQuick qui est quelque chose qui sert beaucoup dans le monde de la communication. Chez Gassi, chez Écran, chez Thales, là-dessus vous y mettez directement votre Linux, qui est même vendu avec souvent. Maintenant, on vous met le CD Linux avec qui est compatible. Vous avez donc la distribution standard, desktop, vous prenez une Fedora, vous le mettez dessus, et puis voilà, quoi, vous pouvez faire de l'industriel avec, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Le temps réel mou, vous pouvez prendre tout simplement un menu 2.6, et puis vous ne patchez même pas, de base, il marche déjà pas mal son boulot. Hein. Le kernel Vanilla, donc voilà, c'est exactement ce que je disais. Vanilla, c'est-à-dire quoi? C'est légèrement modifié. Vous allez sur kernel.org, vous téléchargez le kernel, ça s'appelle le kernel Vanilla. La Fedora, par exemple, la Fedora Impair est compatible avec Red Hat Enterprise. Pour des raisons historiques, en fait, c'est leur modèle de développement. Les Fedora Impair devaient être des. En gros, ils ont juste le logo, quoi, pour faire simple. Le Red Hat est soumis à licence, Fedora n'est pas soumis à licence. Donc, ce qu'ils font, dans l'industriel, parfois ils s'embêtent pas du tout. Ils ont du PC, ils choisissent du PC même pour ça. Ils ont la plateforme de développement sur Red Hat, ils développent sur Red Hat, ils prennent le programme, et hop, ils le mettent directement sur la Fedora qui est embarquée. Et voilà, ça marche. Et puis Debian, donc, 11 architectures. 11 architectures stables. Alors, ici, vous voyez un petit peu tous les acteurs qui peuvent exister. Il y en a quand même pas mal, quoi. Il y en a pas mal, alors il y a des petits, il y a des grands. Et grosso modo, vous voyez qui est-ce qui gagne, et c'est kernel.org, c'est-à-dire le Vanilla et Debian. Voilà. Vous avez Ubuntu qui apparaît. Alors UC Linux qui est une solution qui peut marcher sur les microprocesseurs sans MMU. Je ne sais pas trop si ça va vous parler sans MMU. Ça veut dire en gros que vous n'avez pas de gestion de remapping de la mémoire. Ce sont en fait les microprocesseurs du type ce que vous avez sur calculatrice, par exemple. Puis donc vous avez les attaques commerciaux aussi, WinRiver, Cisco, MontaVista, etc., LinuxWax. Vous voyez que c'est pas énormissime, et puis OpenMedia qui à l'époque de l'étude est en train d'exploser. Et je serais assez curieux de voir maintenant ce que ça donne, parce qu'à mon avis ça doit être beaucoup beaucoup plus utilisé encore. Parce qu'à l'époque en 2007 ça venait à peine de paraître à ce produit là. Alors qu'est-ce que vous achèteriez plutôt de préférence? Ben en fait, grosso modo, enfin, qu'est-ce que vous achetez plutôt de préférence, c'est MontaVista qui tient encore le haut du pavé. Coan, c'est plutôt aux États-Unis et je suis pas sûr que maintenant il soit autant que ça. Mais en tout cas, MontaVista. Alors MontaVista est quand même en déclin. Pourquoi ça? Parce qu'ils se sont basés sur des Linux temps réel dur et il n'y a pas forcément besoin. Le patch de MontaVista, c'est quand même 20 000 lignes de modifiés. Et c'est autant d'euros en fait, ça coûte 20 000 euros. Donc forcément, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et finalement, il n'y avait pas tant de monde qui avait besoin de ça, donc surtout avec la sortie du Linux 2.6, MontaVista a eu tendance à avoir chuté ses ventes. Je pense que ça a dû remonter maintenant parce qu'ils ont un petit peu changé leur business model, ils sont restés sur du Linux temps réel, mais ils ont, ils se sont recyclés dans des choses plus pour faciliter la vie de l'ingénieur. Notamment, ils ont une espèce de plugin sous Eclipse, complètement monstrueux, où vous pouvez juste avec votre souris cliquer et choisir ce que vous voulez mettre sur votre solution embarquée. Vous faites créez-moi la solution et le machin, pouf, il vous sort votre firmware, vous n'avez plus qu'à l'embarquer. C'est quasiment aussi simple que ça. C'est vraiment assez fantastique. On fait des choses formidables en 2009. Alors, les cibles. Alors, les cibles, l'avantage de Linux, c'est que justement, il est très portable. C'est-à-dire que, donc, on a vu tout à l'heure des OS comme OS21 qui ne marchent que sur une certaine, sur un certain matériel. Là, Linux, il va se porter sur 75 architectures. Alors, architecture, ça ne va pas forcément dire un nombre différent de CPU. Par exemple, sur ARM, vous avez différentes saveurs, si on peut dire, sur une traduction de flavor. En tout cas, à la fin, ça nous fait 75 environ. Alors, ceci dit, il faut 32 bits au minimum, donc adieu processeur 16 bits. Ceci dit, processeur 16 bits, maintenant, ça se rencontre quasiment plus. Sauf évidemment, les petites puces que vous avez, qui sont quand même, on en vend quand même quasiment 3 milliards par an dans le monde. Mais ceci dit, on ne va pas forcément mettre, enfin, même jamais, de personnes système dessus. Donc c'est pas vraiment un grand problème. Vous avez en revanche une AMU requise, sauf pour UC Linux. Alors du coup, ça veut dire qu'on va s'adresser quand même à un certain secteur des microprocesseurs. Mais il se trouve que ce secteur-là, qui était minoritaire il y a quelques années, parce que c'était des microprocesseurs qui étaient chers à embarquer, devient maintenant extrêmement peu cher et totalement, enfin, ça a envahi le marché. Donc Linux, pour ça, du coup, a explosé avec ce marché-là. Les principales cibles en temps réel et en embarqué, donc je vais vous en citer quelques-unes. Donc ben, ça, c'est du gros technique, n'est-ce pas? Alors, StrongArm, ça a disparu maintenant, il n'y a plus que ARM, Xscale, CoxScale aussi, je crois que c'est un petit peu disparu. Pour la communication, notamment ben, les téléphones portables, basés sur du TI-OMAP très souvent. Les assistants personnels, vous avez l'ARM 9, Dragon Ball aussi, ça a disparu. Ah, il va falloir que je mette vos messages, c'est fou. Il y a plein de trucs qui disparaissent ces temps-ci. Alors, vous avez du MIPS sur les routeurs et les modems. J'en ai cité un de chez Broadcom, là, de MIPS. SH4 sur les set-top box et les Blu-ray. Alors, notamment le dernier, je crois que c'est peut-être le ST7100, processeur SH4. Alors, le processeur SH4, c'est extrêmement surprenant, ce truc-là. C'est un processeur qui permis, vous bootez votre Linux, c'est affolant comme c'est long, surtout si c'est du Linux de chez ST Electronics, qui est vraiment assez merdique, il est vraiment mal foutu. Mais alors en revanche, ce truc-là embarque des coprocesseurs qui vont décoder notamment du H.264, donc de la vidéo MP4, grosso modo, d'une manière temps réel. Donc du coup, vous avez votre truc qui patine, et puis en fait derrière, vous faites des choses complètement de fou que vous pourriez jamais faire sur votre PC. C'est vraiment surprenant comment je fais ça. Vous avez donc du Power PC pour les réseaux qui sont très soutenus, ici le Power PUC 2 qui va faire de la communication avec des satellites, du câble, etc. Et puis bah, l'X86, c'est le reste du monde, et le reste du monde en fait est en train de monter de taille. Et là, c'est là que je m'en compte que ma série n'est pas à jour. PC104 à 1 million, virgule, Atom. Et la TOM est en train de monter en puissance très, très vite. Alors, on l'annonçait pour l'année dernière. L'année dernière, en fait, ils avaient un coprocesseur qui bouffait énormément d'énergie. Résultat des courses sur mon PC, qui est sur une base Atom, je dois avoir 1h30 à 2h en maximum d'autonomie, ce qui pour un embarqué est complètement inacceptable. Mais depuis avril, grosso modo, ils ont résolu ce problème. Et donc, ben, on va voir de la TOM à peu près n'importe où maintenant. D'autant plus que, ben, c'est vrai que c'est crasseux, c'est du X86, moi j'aime pas. Mais ça marche simplement et c'est pas cher. Le résultat des courses, comme je vous disais, ça abaisse le niveau d'entrée. Ça veut dire qu'il faut moins de gens super techniques. Donc, ben, c'est plus facile à mettre en place. Et du coup, ben, forcément, dès qu'on va avoir une seule tablette PC, on va avoir plus tendance à mettre de l'Atom. Alors, il y a quelqu'un qui a pris le contre-pied là récemment et qui a fait un PC comme ça, là, un micro-PC qui fait tablette en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez enlever l'écran du clavier, ils se sont basés sur du ARM. Mais ces gens-là sont quand même assez rares. Il y a Mandriva qui avait un partenariat avec MTech par exemple pour faire ça sur une base MIPS. Ça reste marginal. Alors, ben vous voyez ici donc, un petit peu ce que j'utilise, ben, vous avez essentiellement du ARM et du X86. Voilà. Et puis les autres, c'est quand même en dessous. Alors, la petite scène rigolote, Linux sont vraiment partout. Alors, pour lancer des missiles, on lance vraiment des missiles avec Linux. Maintenant, c'est pas en production. Enfin, je pense pas, on a la nouvelle. C'est pas en production, mais on a lancé en tout cas. Du Linux, ça a explosé. La suite est pas moins. Vous avez donc les télé Sony. Ah ben voilà, donc les télé Sony avec. Je vous envoie sur la page, la page délirante avec la longue liste des télé Sony. Qui sont quand même des télés de luxe, hein, c'est des télés à 2000-2500 €. Des robots, alors des robots pro ou alors à la maison, vous avez un truc qui s'appelle Linux Robots, qui est vachement drôle, avec le type qui vous explique comment faire votre robot chez vous avec du Linux. Et c'est vraiment. Il y en a qui n'ont pas de vie sociale, et c'est bien. Pour traîner les vaches, alors, vous avez même pour transporter aussi, zut, j'ai oublié le deuxième lien, vous avez pour traîner les vaches, vous avez aussi pour faire des lactoducs. L'actoduc qui a été entièrement asservi sous Linux. Et pour moi, c'est très important parce que je suis un grand amateur de lait, notamment des fraises. Vous voyez, le sujet me touche pas seulement. Et puis, vous avez aussi donc, pour faire des crèmes glacées. Voilà, donc Linux peut faire aussi des crèmes glacées. Ce qui est quand même bien parce que les pingouins ont besoin de crèmes glacées pour survivre, comme nous le savons. Alors, rapide aperçu. Alors, peut-être que tu veux savoir de quoi c'est. Alors oui, alors, rapide aperçu de ce qu'on peut trouver dans Linux embarqué. Alors donc, nous avons donc des projets pour l'embarqué, les projets pour le temps réel, les projets libres et communautaires, nous avons les projets commerciaux, les projets libres lancés par les commerciaux. Ça c'est bien, ça, les projets libres lancés par les commerciaux. Ça montre que clairement on peut faire un business model. Il n'y a pas que Nagora qui fait quoi. On peut faire du business model, un business model de libre lancé par Google par exemple. Google lance Android. Bon, clairement, ils espèrent se faire de la pub derrière et que les gens utilisent Google Maps. Vous direz Google Maps, il n'y a pas de pub derrière. Oui, mais on vend derrière des gens le fait de pouvoir être localisé sur la carte plus facilement et de pouvoir être référencé quand on fait une recherche. Donc vous voyez, vous commencez à avoir des business models un petit peu plus compliqués que le simple truc de dire je vends, toi payez-moi parce que toi distribuer l'appareil. C'est vraiment le truc super basique du Moyen-Âge. Alors, et puis on a même des commerciaux qui participent au projet libre. Et ça aussi, c'est très bien. Par exemple, vous avez Cisco, vous regardez le projet Boot, donc qui est un projet de bootloader qui est extrêmement complet. Vous verrez, vous voyez l'importance de l'action de Cisco dedans, c'est très important. Montavista, dans le menu Linux, dans le menu Linux 2.6, doit beaucoup à Montavista. Donc, clairement, on a des sociétés qui sont prêtes à payer des ingénieurs qui travaillent pour faire des solutions qui sont redistribuées à tous, y compris à la concurrence. Et dans le monde industriel, parce que bon, déjà dans le monde informatique tout court, par l'Inagora, il n'y a pas énormément de sociétés qui font ça. Mais alors là, on est vraiment dans le monde industriel. Il faut voir ce que c'est le monde industriel, c'est quand même du barbu électronicien, quoi. C'est autre chose. C'est très conservateur, c'est un milieu qui a beaucoup d'inertie. Ce qui fait que l'avantage de milieu qui a beaucoup d'inertie, c'est que la crise, par exemple, on ne connaît pas trop. Parce que justement, on a l'habitude d'avoir des cycles plus longs, on a l'habitude de gérer les choses de manière carrée. En revanche, le désavantage, c'est que les évolutions sont moins rapides, elles sont moins rapides. En revanche, elles sont plus prononcées sur le long terme. Voilà. Alors, dans les projets communautaires, nous avons donc OpenEmbedded, qui est donc une solution source pour l'embarqué, qui est customisable et qui est très répandue. Alors, en fait, OpenEmbedded, c'est un petit peu le pendant de BuildRoot, BuildRoot que j'ai pas cité du coup, BuildRoot qui est aussi très simple à mettre en œuvre, plus simple qu'OpenEmbedded d'ailleurs, mais qui est beaucoup moins complet en fait. Donc, BuildRoot, on l'utilise plutôt pour faire des mini-distributions, j'ai ouï dire pour l'utiliser par exemple chez Free, pour la Freebox. Et peut-être qu'on pourra confirmer, j'avais un signalé qui était stagiaire chez eux. OpenEmbedded, ça va être utilisé, le point de chaîne est plus compliqué, notamment on l'a utilisé chez Sagem avec mon chef si présent. RTI Xenomai, ça va être du temps réel dur, avec beaucoup de fonctionnalités. Alors, Xenomai en fait est une évolution, enfin un fork évolutif de RTI. Enfin, ils avaient essayé de travailler ensemble, finalement ils ne sont pas mis d'accord, donc ils sont partis chacun de leur côté. Ce sont des solutions qui sont vraiment d'une technicité extrême et qui répondent à des besoins très très particuliers et vraiment très techniques. On n'imaginait vraiment pas Linux arriver sur des secteurs pareils il y a quelques années. C'est-à-dire en fait, quand je dis il y a quelques années, il y a 10 ans quoi. Et puis donc la BusyBox, UCFC, l'Uboot, OpenOCD, etc. qui sont des projets communautaires de logiciels et de bibliothèques. Parce que c'est important, la bibliothèque, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? Ça va être DLL sous Windows. Hein. C'est une partie qui va permettre de faire votre logiciel plus simplement en ayant des fonctionnalités déjà codées. Vous allez puiser dedans, donc ça va vous éviter de réinventer la roue. Et ne pas réinventer la roue, c'est quand même le cœur de la problématique de Linux embarqué. Dans les projets commerciaux, donc les clés en main, sur étagère, vous avez donc deux types. Vous avez donc d'une part les embarqués et d'autre part les temps réels. Les temps réels étant quasiment toujours embarquables. Donc vous avez Cisco avec AWS, Noxworks avec BlueCat, ST Electronics avec ST Linux 2.0, que je ne vous conseille pas. WinRiver avec Realtek Core, RT Linux. Alors ceci dit, ST Linux 2.0, il est téléchargeable sur Internet. C'est pas très bien fait, mais au moins c'est gratuit. Il faut s'inscrire. Oui, d'ailleurs, il fallait s'inscrire, les gens. Hein, vous n'avez pas oublié ça. On a eu chaud, hein, parce que vous savez que d'un peu, on allait se retrouver en sous-sol. Donc, on aurait eu un petit peu du mal, en fait, tout le monde, je crois. Realtek Core, donc chez WinRiver, donc qui avant s'appelait RT Linux, et qui était soumis qui est un brevet logiciel affreux, qui fait que du coup, c'est développé pour y répondre RTI et Xenomai. Donc, comme quoi, le brevet logiciel, vous savez, on y parle tout le temps. Et puis, donc, ça, ce sont des grands acteurs. C'est des gens qui étaient là depuis longtemps. Le SIGGOUD faisait de l'avionique militaire et civile. ST Electronics, bon, je ne le présente même pas. Le Wind River, donc, je dis, 70% du marché avec VxWorks. Ces gens-là, c'est pas du petit, quoi. C'est pas du petit. C'est vraiment du gros requin, quoi, qui était dans le monde, là, qui avait une politique agressive et qui ont bien compris que le vent était en train de tourner et qu'eux-mêmes devaient s'adapter. Donc, vous avez aussi des gens qui sont apparus, surtout aux États-Unis, et qui ont fait leur propre solution et qui vendent ça en fait aux clients sur commande. C'est une seule mesure, c'est de la demi-mesure, on va dire. Vous avez Concurrent Computing qui faisait, parce que je pense qu'il a encore amélioré ça depuis le temps, 30 microsecondes de temps de réactivité, temps réel dur. Donc, vraiment, le truc qui réagit en 30 microsecondes, c'est garanti. Sur une distribution qui s'appelle Red Hawk, parce qu'en fait ils sont basés sur Red Hat. Je vous ai dit, Red Hat, on le retrouve quoi. Et puis, la référence va être tout de même Monta Vista. Donc tout ça. Donc Qtopia, merde, il faut changer le nom, ça s'appelle maintenant Qt Embedded. Qt Embedded de chez Trolltech, licence Qt, qui a changé aussi, mon dieu, mais il y a des luxe slides, il faut que je la change, ne regardez pas ça, c'est une horreur. Bon, alors quand je mettrai les slides en ligne, ne vous inquiétez pas, j'aurai changé ça. Parce que maintenant, c'est entièrement GPL, en fait. Avant, ils avaient un business model qui était de vendre si vous ne vouliez pas faire de GPL. Depuis que Nokia pardon, a racheté le Trolltech, ils ont décidé en fait qu'ils ne feraient pas de business dessus. Tout comme Google, lorsqu'ils ont lancé Android, ils ont décidé qu'ils ne feraient pas de business dessus, ou même d'ailleurs Adobe maintenant avec Flash. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont récupéré une technologie, continuent à payer des équipes avec, mais en fait, ils s'en servent de vitrine. Clairement de vitrine. Moi, je les ai vus d'ailleurs sur un salon. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais même mon petit PC portable, en fait, il est dans une pochette qui m'était filée par eux, vous voyez. Trolltech. Et en fait, c'est j'ai eu le goût, cette pochette, sur le salon d'embarquer, de temps réel. Là, ils faisaient leur publicité en disant, voilà, nous, on est fort, etc. Donc, le business derrière, c'est peut-être évidemment de leur demander de développer des choses spécifiques. Mais clairement, Nokia a décidé de s'en servir de vitrine commerciale pour attirer le chaland. Alors, j'ai cité aussi Gnome Mobile. Alors, Gnome Mobile, qui est en fait un méta-projet qui recense des projets qui ne lui sont pas affiliés. C'est un petit peu compliqué, c'est le monde du libre, c'est le bordel. Alors, par exemple, il y a Maemo. Donc, Maemo qui a été lancé par Nokia à la base et finalement qui, depuis qu'ils ont acheté Trolltech, clairement, ils vont abandonner la chose et puis ils vont passer sur le Qt. Donc, Maemo, on le retrouve sur le N570, le N800 et le N810. Qui sont des toutes premières mini-tablettes Wi-Fi embarquées avec un grand écran dessus, tactile. Dessus, ils avaient utilisé de la Debian sur Scratchbox, et après ils ont migré sur Open Embedded. Hein, toujours, on voit les mêmes qui reviennent. C'est une interface qui est basée sur Hildon. Alors Hildon, en fait, c'est quoi? C'est une bibliothèque qui est à la base GTK+, et qu'ils ont allégé. Donc ils ont récupéré un projet libre qui était fait pour le bureau, pas du tout pour l'embarquer, et ils l'ont taillé. Pour en faire quelque chose qui est utilisable pour l'embarquer avec des fortes contraintes de mémoire et donc site de réactivité. Donc OpenMoko, donc le téléphone maintenant, alors il y avait le Neo 1973, maintenant c'est passé au FreeRunner, elle n'est pas du tout avant, c'est une catastrophe. Sugar, donc le PC, et puis Android, ce que l'on a appelé pendant très longtemps le G-Phone, mais je crois que maintenant tout le monde a oublié cette appellation-là, ou qu'on trouve un petit peu encore Google Phone. Hop, conclusion. Alors, au final, notre Linux a plusieurs avantages qui sont très importants et primordiaux et très déterminants dans l'industriel. La matière première est gratuite et elle est abondante. On a beaucoup d'existants et elle est téléchargeable sur Internet. Enfin, vous n'avez pas à vous embêter. Notamment, je peux vous citer par exemple comment est-ce que ça s'appelle déjà ce truc-là ? Un navigateur de fichiers. J'ai le nom sur le bout de la langue, qui est utilisé notamment sur la PSP, Access. Voilà, Access. Access, si vous voulez juste le tester, parce que vous êtes développeur, il faut déjà payer 20 000 euros. Et vous ne savez même pas encore si c'est bien ou pas bien, quoi. Et derrière, la licence, moi j'étais chez Philips, j'étais en train de faire la rétractation pour voir en fait l'embarquer sur des set-top box, notamment en Espagne. Eh bien, la licence derrière, ça partait au Japon, les mecs modifiaient d'autres trucs dans le point doc, ils leur envoyaient sans avoir dit ce qu'ils avaient modifié, et puis derrière, ça devait repasser encore au service juridique. Au bout de 2 mois, on n'avait toujours pas signé pour pouvoir utiliser le software. Le navigateur à l'heure actuelle, on a remarqué, c'est vraiment un sujet épineux. Et notamment, Nokia, en rachetant Trolltech, a clairement eu dans l'idée de réutiliser WebKit pas derrière. Donc WebKit qui était en fait l'héritage du HTML qui était récupéré par Mac, qu'ils ont modifié, qu'ils ont réinjecté, patin, couffin. Alors, le code est de qualité, il est ouvert. Donc ça veut dire qu'on peut faire des audits du code, et notamment, je vais en parler plus tard. Voilà. Donc il est quand même bien codé, parce qu'il est codé par plusieurs mains qui ont fait attention à ce qu'il faisait, et que Linux, par exemple, si vous voulez intégrer un driver dedans, ça passe par plusieurs relectures, et ça passe par un coding style qui est défini, donc qui est sérieux, avant d'être intégré. Alors, contrairement à l'industriel, on trouve vraiment, c'est la jungle. On trouve des programmes fermés qui sont vraiment n'importe quoi. La plateforme de dev est la même aussi que la plateforme que vous embarquez. C'est important ça. C'est-à-dire que vous êtes sur du Linux et vous développez pour du Linux. C'est beaucoup plus simple du coup. Vous voulez avoir une fonctionnalité, vous voulez avoir le manuel, vous tapez masque, l'espace, la commande, tac, vous l'avez directement. Vous voulez dire mince, alors il faudrait que je récupère le device SDSH machin, ou comment est-ce que c'est foutu dans Sage Pro, ben, vous avez le même sur votre PC, quasiment le même. Différence après, parce qu'évidemment, si vous êtes sur notre architecture, vous avez des spécificités qui sont à vous, par exemple, la vision de la cache. Mais à part ça, vous êtes sur la même plateforme à la base. Et ça diminue le temps de développement. Donc le temps à payer un ingénieur qui coûte cher. Support matériel, sur la bureautique, vous savez, on a toujours cette vieille rengaine de Linux, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas mon driver pour ma dernière webcam, pour ma dernière carte graphique, etc. Mais pour l'embarquer, en fait, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, justement, Linux, on aime beaucoup parce qu'il y a énormément de drivers. Il y a énormément de drivers pour faire du Wi-Fi très simplement, pour faire du Bluetooth très simplement, etc. Sachant qu'évidemment, dans le monde du hard, lorsqu'on fait l'embarquer, on choisit son hard. Donc bon, on n'a pas la problématique de se dire que oui, mais est-ce que j'ai vraiment le truc. Et en plus de ça, c'est même pire que ça, c'est que les vendeurs de hardware prévoient la problématique Linux. Quitte à faire des choses extrêmement crasseuses, comme chez ST Microelectronics, qui file un driver qui en fait à l'intérieur a des gros morceaux d'OS21 dedans, c'est un petit peu informe et infâme. Vous avez par exemple des morceaux de binaire dedans qui sont codés, c'est-à-dire dans votre code source, ils mettent des morceaux de binaire à l'intérieur avec des backslash machin, etc. C'est codé sur Milling, paf, ils injectent ça directement. C'est abominable. Et donc comme ça doit être puni par la loi, mais n'empêche que prévoit le coût. Donc du coup, on vous vend du matériel et on vous vend le support avec pour Linux. Le reste des courses, c'est beaucoup moins embêtant de mettre du Linux que de mettre autre chose. Et comme je vous disais au début de la conférence, QNX, qui est peut-être meilleur que Linux sur beaucoup de choses dans l'embarqué, est moins embarqué, beaucoup, beaucoup moins embarqué que Linux. Alors l'architecture est quand même sympathique, parce que Linux, franchement, quand ça ressemble à quelque chose, si vous avez déjà travaillé sous Windows de manière sérieuse, vous avez vu que ça ressemblait à rien, par exemple. Linux, au moins, il y a des modules, tout est fichier, et puis alors pour l'industriel, vous avez effectivement des logiciels. Et alors ça, c'est un truc de fou, c'est des logiciels pour le type qui fait de l'embarqué. Parce que pour l'instant, jusqu'à il y a quelques années, on faisait tout dans le noyau. Et donc dès qu'on faisait une erreur applicative dans le noyau, on plantait entièrement l'application. Donc évidemment, pour ça, vous avez un watchdog sur votre hardware qui dit « Ah merde, ça vient de planter là, bon ben on redémarre tout ». C'est ce qui se passe par exemple sur les avions, hein. Faut pas croire, sur un avion par exemple, en cas de problème, ça redémarre en quelques microsecondes, hein. c'est un temps qui est garanti, mais c'est exactement ce qu'on fait, hein. On redémarre l'application. Là, sur le coup, on va faire du logiciel qui, lorsqu'il plante, le logiciel plante, le système ne plante pas. Donc à la rigueur, ce qu'on a juste à faire, c'est relancer le logiciel. C'est une problématique qui est différente et qui est nouvelle dans l'embarqué. Pas nouvelle. À l'échelle de l'embarqué, toujours pareil. Vous avez de l'aide et de la documentation, même si parfois c'est pas super génial, au pire de toute façon vous avez des sources, et de toute façon même si l'aide et la documentation ne sont pas géniales, ça n'a jamais été génial même lorsque vous payez une fortune. Donc finalement, ça ne change pas énormément de choses, donc ça peut être que mieux. Et puis au pire, si vous n'êtes pas content, vous ouvrez un wiki et vous tapez dedans. Et ça c'est quand même pas mal quoi. D'ailleurs vous avez un wiki qui s'appelle elinux.org et qui est, je vous en reparlerai à la fin dans la webographie, qui est un wiki qui est sous forme de catégorie. Bootloader, Java, démarrage du système, kernel, etc. qui est dessus, et puis dedans vous avez des informations, il y a des gens qui mettent des trucs et astuces des liens vers des fournisseurs, etc. Parfois c'est très incomplet, parfois c'est très complet. Puis vous avez aussi donc évidemment l'IRC, les forums, les pages blanches, etc., les diffusions. Alors, les diffusions, par exemple, vous voyez, on en a mis une en place au sein de l'APRI qui s'appelle 2IL-APRI.... Ouais, voilà, exactement, que personne n'utilise. On n'a pas eu un seul message, je crois, si on en a eu un, c'était bienvenue sur la liste, machin chose. Et on a mis ça en place, je crois, il y a deux ans et demi. Parce que justement, il y avait besoin de gens qui n'arrivent pas à communiquer, mais en fait, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à communiquer, vous n'avez pas les moyens de communiquer, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer, parce que c'est psychologique, en fait. Parce que là, on a vraiment la preuve, quoi. Je veux dire, bon, le truc a quand même été connu, il y avait une cinquantaine de participants, etc. Mais on a vraiment du mal à communiquer sur ce qu'on fait en informatique industrielle, parce qu'il y a vraiment une culture du secret, et de je dois me débrouiller par moi-même, quitte à sortir ma bite, mon couteau, et faire mon MacGyver en mettant des coups de scotch. Alors, et puis enfin l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est une chose absolument délirante, et parfois c'est meilleur même que les NDA. Alors les NDA, c'est quoi? C'est les Non-Disclosure Agreements. Alors grosso modo, on voit ça heureusement maintenant de moins en moins, mais par exemple, lorsque vous aviez un processeur ARM, alors processeur ARM par exemple, j'ai 974, je crois que vous n'allez pas voir la carte tournée parce que manifestement, j'ai pas mon câble. Ah si, j'ai mon câble. Ah ok, donc voilà, j'ai un câble, mais il ne marche pas, vous voyez, j'ai couru dans tout Wi-Fi, c'est le vitail Wi-Fi. Pour trouver un câble, on m'en a prêté un pour 15€ et je dois le rendre en plus cette prochaine pour qu'on me rende 15€, vous avez 50€ sur câble. Et non, en fait, alors vous voyez, j'en ai un adaptateur, mais c'est un mal. Et pas de bol, c'est une carte chinoise, et ces implantés chinois ont mis un mal aussi, ce qui se fait jamais normalement. Donc comme l'homosexualité est parmi les connectiques est interdite, ce qui est honteux, je suis d'accord, mais voilà. Et donc du coup ça ne marche pas. Et donc il faudrait un femelle qui normalement est avec la carte, sauf que je l'ai oublié au boulot. Et c'est nul. Et donc en fait j'ai réussi à trouver un femelle, mais pas de bol, il doit être croisé parce que ça peut être un câble d'imprimante pour, vous savez, les mini-imprimantes bidons là pour les tickets de caisse, des conneries comme ça. Et moi je voulais avoir un câble de console, tous les serveurs ont des câbles comme ça tout de même, hein, rappelons-le, pour avoir des consoles sans brancher d'écran dessus, parce que brancher un écran sur un serveur, c'est quand même pas terrible. Et ben ouais, manifestement, ça va être encore un truc un petit peu bizarre pour beaucoup de personnes. Donc c'est dommage parce que j'avais une super démo, je vous en parlerai à la fin. Donc, vous ne la verrez pas, mais vous pourrez l'imaginer. Donc vous voyez, donc, par exemple cette carte-là, je vais la débrancher. Donc après ça va servir faire le développement, donc voilà, un petit machin chinois. Vous avez votre microprocesseur, il est, alors attendez que je ne me trompe pas, ça c'est le réseau, le microprocesseur, il est là. Il est là-haut, vous voyez, c'est tout petit, hein. C'est vraiment miniature. Je ne sais pas si vous êtes, je veux peut-être le filmer après. J'ai une webcam, j'ai tout pris, vous avez vu, j'ai une webcam pour que je puisse filmer le machin, il manque juste un câble. Et donc sur ce module-là, donc, quand vous vouliez avoir la documentation, il fallait signer avec ARM, je ne divulguerai pas les informations, ni le PDF de 12 mégas, sous peine de me faire couper la main, etc. Et finalement, en fait, ce PDF de 12 mégas, en fait, c'était devenu une espèce de quête du Graal. Il fallait trouver quelqu'un qui connaisse le PDF et qui l'ait sur sa clé USB, et on se le passait sous le manteau, vous voyez. C'est un petit peu comme des images porno, évidemment. Et donc, quand on se passait le PDF de 12 mégas, donc, finalement, tout le monde l'avait. Donc, au bout d'un moment, ils en ont eu marre, ils l'ont mis sur le site web. Donc maintenant, c'est plus la peine de payer l'NDA. Mais alors parfois, par exemple, alors, ST Microélectronique, c'est encore ça, par exemple, pour la STS-700. Et puis vous avez la doc, en fait, elle est nulle, quoi. Elle ne correspond pas vraiment à la vérité. Et finalement, en fait, vous regardez les sites qu'on fait durer de la rétro-ingénierie pour pouvoir implémenter dans Linux, et bien vous avez des choses qui, eux, elles marchent, quoi. Donc vous avez vraiment le véritable comportement qu'il faudrait avoir. Donc c'est assez délirant. Et notamment, par exemple, le site Philips. Sur cette webcam, vous voyez, c'est une webcam Logitech, il y a une puce Philips à l'intérieur. Il y a tout un imbroglio avec le driver il y a environ 6-7 ans qui fait qu'en fait ils avaient mis un driver, il a été retiré parce qu'il y avait du code qui leur appartenait, ils ne voulaient pas le libérer, etc. Et donc du coup il y avait un driver libre qui avait été fait à côté, mais on ne savait pas trop s'il était légal ou pas légal, du coup il n'était pas dans le cadre de Linux. Et finalement ben, Philips en fait, je suis allé bosser chez eux, ils utilisaient le driver qui était justement sujet à caution. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas le driver de chez eux qu'ils avaient développé, ils utilisaient le driver développé par notre type. Et finalement, ben, ils ont fini par lâcher prise et ça a été intégré dans le kernel Linux, ce qui fait que maintenant, je branche ma webcam, ça marche direct. Donc vous voyez, c'est quand même assez délirant, quoi. C'est-à-dire que finalement, il y a des types qui font ça dans leur garage qui sont meilleurs que les gens qui sont payés pour le faire. Bizarre. Bon, ceci dit, l'histoire du garage, c'est un mythe. Personne ne travaille sur un garage. Personne ne travaille gratuitement, sauf les gens qui n'ont pas de vie sociale. Mais ça existe. Alors, un inconvénient en revanche, c'est qu'il y a des coûts cachés. Il y a même beaucoup de coûts cachés. En fait, tous les coûts sont cachés dans Linux. C'est-à-dire que vous ne payez pas de licence, comme je vous ai dit, et puis vous ne payez pas de royalties. Donc tous les coûts vont être cachés, ça va être des coûts de ce qu'on appelle le libre d'état gratuit. Ça va être des coûts essentiellement d'ingénierie. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des coûts d'ingénierie, parce que sinon, je ne pourrais pas vous parler. Et évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dès le début. Alors, des coûts de création et des coûts d'évolutivité. Alors évidemment, les coûts d'évolutivité, vous me direz, vous les avez tout le temps. Oui, mais non, parce qu'en fait, avant, quand on faisait des trucs qui étaient très basiques, il n'y avait pas besoin de les faire évoluer. Alors que maintenant, quand on met du Linux, le but, justement, c'est d'avoir des choses un petit peu touchy et puis de pouvoir faire des évolutions. Et donc, si on veut pouvoir faire des évolutions, il faut payer des gens qui font des évolutions logiques. Alors, vous avez donc besoin de très bons développeurs et intégrateurs, du style moi, qui sont nécessaires. Le problème, c'est surtout que c'est rare que c'est cher. Il n'y a pas vraiment énormément de formation dans les écoles d'ingénieurs. Ça commence à augmenter, mais ce n'est pas non plus super démentiel. Alors, c'est rare et cher en théorie, n'est-ce pas? Parce que bon, ça reste quand même moins cher qu'un développeur Java qui fait de la finance, qui fait cracher le monde. Mais, bon, tant mieux pour moi, évidemment, que ce soit un vrai cher, mais il fait un cher, mais pas trop, voilà,
c'est ça que je veux dire.
Alors voilà, la grande question des Indiens, alors tout à fait, alors les Indiens sont autant mes amis que les Chinois. J'ai vu du code indien, le code indien, en fait, c'est vraiment mythique, en fait, c'est succès, comme on dit. c'est-à-dire que le code indien, comment expliquer ça, en fait? Non, c'est une horreur, en fait, faut le voir, en fait, pas encore pour ses yeux, mais... Dans tous les cas, en fait, l'avantage de l'industriel, c'est que, bon, outre que les Indiens ne savent pas coder, du moins ils savent faire du Java de merde, c'est sûr, mais ils ne savent pas coder des choses qui marchent. L'avantage, c'est qu'on ne fera jamais sous-traiter un missile en Inde, ni un post-radio en Inde, ni un radar en Inde. Et en fait, heureusement, quoi. Et même la communication, même le téléphone portable, etc., à la rigueur, on va pouvoir faire sous-traiter ça en Bulgarie, mais bon, on va faire sous-traiter quoi? On va faire sous-traiter une application qui va se connecter sur Google Maps, quoi. Donc le cœur du métier, lui, il restera sur place, tout le long. Et c'est même pire que ça, c'est qu'on est en train de découvrir un truc fabuleux qui s'appelle le forfait. C'est quoi le forfait? C'est qu'une boîte s'engage à faire le travail et le fait dans ses locaux à elle. Parce que jusqu'ici, on marchait en régie. C'est-à-dire qu'en fait, on nous envoie aller faire le Zouave à Vélizy ou à Cergy, comme c'était mon cas d'ailleurs. Et en fait, je déteste Vélizy, j'ai pas remis les pieds d'ailleurs depuis que j'ai quitté Sagem. quelle horreur. Et donc maintenant, en fait, donc on découvre le forfait et des engagements de résultats. Et donc, tous les derniers projets que j'ai faits pour le CEA, pour le GIE carte bancaire, et même le prochain sujet que je vais faire, mais dont je ne peux pas encore parler parce qu'on n'a pas encore signé, mais bon, on l'a quasiment signé, ça va être au forfait. C'est-à-dire que c'est dans nos locaux et on fait ça chez nous. Et c'est un truc qu'on est en train de découvrir, ça. C'est-à-dire que l'industriel ne fait pas trop confiance à ce qu'il ne voit pas. Voilà, alors il y avait la grande excuse jusqu'à présent de dire oui, mais j'ai un matériel super, super spécialisé, je ne peux pas le sortir, c'est du matériel lourd, donc je veux que l'ingénieur vienne chez moi. Finalement, on s'est bien rendu compte que l'excuse ne tenait pas, et que le forfait c'est quand même plus chouette aussi, parce que justement il y a un engagement de résultats et non pas de moyens. Parce que sinon on peut très bien envoyer un ingénieur, il faut le faire pendant 6 mois, et puis après il n'aura rien quoi. Donc voilà. Besoin aussi donc de temps. Alors notamment pour la partie de compilation. Alors si la partie de compilation maintenant c'est beaucoup plus réduit parce qu'on a des PC qui sont beaucoup plus puissants, on a du double cœur, enfin on a vraiment des trucs complètement délirants, on a aussi des machines virtuelles, on peut faire des trucs vraiment de fou maintenant. Mais ceci dit, bon, ça prend quand même du temps pour compiler dans tous les cas. Même si on divise par 3, il faut toujours compter peut-être une semaine, j'en sais rien, ça fait longtemps que je peux faire Linux de A à Z. Si je fais du PSD de A à Z pour compiler, il faut pour une distribution qui fait 30 mégas à la fin, il faut compter une petite heure, on va dire. Une petite heure de compilation. Et une petite heure, et sur un vieux PC d'il y a 2 ans, il faut les compter une journée entière. Vous voyez, finalement, ça s'améliore vraiment beaucoup. Ceci dit, d'un autre côté, le plus dur, en fait, c'est pas vraiment de compiler de A à Z, c'est surtout déjà de savoir ce que l'on va compiler. De choisir ce que l'on veut compiler, de faire la configuration, et puis de faire un petit peu tout ce qui est attenant. Et ça, c'est incompressible. Donc, il y a toujours besoin de temps. Il faut être root et avoir une connexion Internet. Alors, être root, ça veut dire qu'il faut avoir le droit super utilisateur sur sa machine. Et alors, ça, dans l'industriel, allez expliquer au type chez Thales, sur un réseau militaire, que vous devez être root sur votre machine. Le mec, il vous aime pas. De base. Vous avez à peine d'arriver, il vous aime pas. Alors, vous savez ce qu'il vous fait? Alors, il vous dit, bon, écoutez, de quoi vous avez besoin? J'ai besoin au moins de pouvoir mettre une clé USB, de pouvoir la démonter parce que votre adat est un petit peu pourri et je peux pas le faire. Alors, ok, bon, je veux mettre en sous-douce sur le boot. Mais j'ai besoin aussi, enfin, vous voyez, là, j'ai une carte à côté, là, de développement, et j'ai besoin d'avoir une deuxième interface réseau. La deuxième interface réseau, il m'a fallu un mois pour l'avoir. Le type est arrivé un jour, il est arrivé avec une carte no-name qui m'a branché. Il a mis un câble réseau, ça ne marchait pas. Je lui ai dit, mais votre câble réseau, il est croisé. Le type, il me regarde, il me dit, il y a des câbles croisés, on n'a pas ça chez nous, on n'a que des câbles droits. Ok, alors il a fallu encore une semaine pour trouver un câble droit. Après, on a mis le câble droit, et puis là, je me suis dit, mais enfin, c'est bien beau, j'ai une carte réseau, mais il faut que je puisse gérer les IP de cette carte réseau pour pouvoir me connecter à ma carte de développement. Donc du coup, j'ai dû ouvrir un ticket au support pour qu'il mette un sudo sur ifconfig sur mon interface pour que je puisse changer l'adresse IP. C'est complètement démentiel, quoi. Et puis à la fin, évidemment, pour compiler, à la fin, j'ai compilé sur ma carte, c'était une carte VME, heureusement, donc c'était un truc puissant, donc j'ai compilé sur la carte à côté qui était, donc voilà, quoi. Et puis j'avais mon portable, mon PC portable, j'avais nos dispenses pour pouvoir porter mon PC portable dans un truc plutôt militaire, pour pouvoir travailler, en fait, correctement, quoi. C'est quand même complètement fou. Et puis alors la connexion internet, alors ça la connexion internet c'est ça gêne la grande galère. Je veux avoir une connexion internet parce qu'il faut que je compile 4 gigas de source, bordel. Non, c'est pas 4 gigas de source, c'est 4 gigas, il faut compiler. Il y a quand même 800 mégas de source. 800 mégas de source. Alors c'était une galère, mon dieu. Et alors après ça, ce qui est rigolo, c'est que ils travaillent juste au-dessus. Et il faisait un projet Debian, alors évidemment personne ne se parle, donc personne n'est au courant. Il faisait un projet sur Debian de tablette Wi-Fi. Et sous Linux, et ben, c'était pareil. Donc finalement, ben, ils ont fait la méthode qu'on a retrouvée un petit peu aussi ailleurs dans le sous-sol, c'est-à-dire qu'ils ont hacké une Lightbox, et puis ils ont une connexion pirate avec n'importe quoi. Donc vraiment n'importe quoi. Donc évidemment, alors ça, heureusement, on trouve de moins en moins la problématique, notamment grâce aux machines virtuelles. Dieu bénisse les machines virtuelles, donc on peut être dans sa machine virtuelle et pouvoir se dépatouiller. Et puis la connexion internet, ben voilà quoi, même si c'est maintenant une connexion internet, c'est fou. Enfin, si t'allais se remarquer, quand je suis parti, ils étaient en train de mettre en fait une espèce de virtualisation distante pour avoir un Internet Explorer. Ils n'ont pas Firefox, c'était très fort. Hein. Alors ils avaient Firefox sur le poste de travail pour l'intranet, mais Internet Explorer pour l'Internet. Des fois, vous savez, bon, bref. Donc, ils commencent vraiment ces gens-là à se dire que, ouais, bon, ben ok, nouveau besoin. Nouvelle chose, nouveaux besoins, quoi. Et puis, ben, la préhistoire, ben, c'est fini. Bienvenue dans l'histoire. Alors, aussi, de bien dimensionner dès la base, ne pas s'embarquer dans du grand n'importe quoi. J'ai vu, par exemple, un sujet de stage. Le type, il a passé 6 mois de stage à faire, chez EADS, pour ne pas les dénoncer, à faire une étude sur un noyau 2.4 vanilla pour du temps réel dur. Au bout de 6 mois, il est arrivé à cette grande conclusion. Le Linux vanilla non prévu pour le temps réel n'est absolument pas temps réel. 6 mois. Bon, il faudrait plus dire en 20 minutes pour expliquer pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, résultat des courses, c'est vrai qu'on a des gens qui se lancent dans du grand n'importe quoi et qui à l'arrivée disent ben, Linux c'est de la merde, ça marche pas. Mais forcément, parce qu'en fait, c'était pas ça dont ils avaient besoin. Et puis, de toute façon, ou alors ils avaient peut-être besoin de ça, mais ils ont mal compris comment ça marchait. Donc, bon, forcément, si on fait n'importe quoi, on arrive sur du n'importe quoi. Et puis aussi, il faut quand même avoir une largement suffisante, donc minimum 4 mégas. Limite, maintenant, tout le monde a ça, quoi. C'est devenu tellement peu cher. Et c'est vrai que même, il y a à peine 2 ans, c'était quand même assez problématique. Mais c'est vrai que maintenant, notamment grâce aux téléphones portables, qui font que, ben, on amortit rapidement les coûts de création hardware, etc., ça, la problématique n'existe quasiment plus, quoi. On a du 32 mégas, 64 mégas en flash, quoi, facilement. Très facilement. On se dit, en fait, il y a une double problématique de la flash qui est très compliquée. Vous le sauriez si vous veniez dans mes cours. Et bon, vous ne saurez peut-être pas. Oui, si, de ça, au fond, la dernière. Le flash, en fait, il y a deux manières. Il y a deux sortes de flash. Il y a en fait la flash qui a du volume. C'est la flash pas chère, mais toute merdique. Et la flash qui est très bonne, en fait, elle a des petits volumes sur lesquels on ne pourrait même pas mettre de Linux. Donc, en fait, en grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait du travail d'ingénieur. C'est-à-dire, en fait, on fait donc des Lego en premier. On met des paquets, vous voyez, donc on fait des paquets logiciels, on fait de la construction, c'est-à-dire on fait des Legos, hein, on monte le truc. Et puis après, une fois qu'on a mis des Legos, ben on va mettre de la super glue pour que ça tienne. Donc après, on va mettre ses programmes personnels, vous voyez, pour faire la télévision, on va mettre des petits scripts au démarrage, etc. Pour que ça tienne tout ça, quoi, pour qu'il y ait du tenant. Et puis après, on va mettre, une fois qu'on a mis la super glue, en fait, on regarde le machin, on se dit, ah merde, il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Alors évidemment, là, on vient déjà de terminer le projet normalement, on est en dépassement. Donc, on regarde son chef, on lui dit, bon, en fait, il faudrait peut-être refaire ce truc-là. On a le temps ou pas, en fait. Alors, évidemment, la réponse est ou pas. Donc, on va mettre du scotch. Alors, le scotch, c'est toujours une grande aventure. Alors, grosso modo, c'est une truc astuce, en fait, des rustines, on voit un peu le programme. Alors, je pourrais vous raconter des histoires rocambolesques de scotchage, mais après, je vais dénoncer des gens, donc, notamment moi-même. Mais bon, ouais, si vous saviez, des fois, ce qu'on fait, on en rentre tous les jours. Ça nous suit même la nuit quand on dort. Et puis après, il y a les incantations mystiques. Alors, les incantations mystiques, c'est un petit peu le savoir-faire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ben, c'est un petit peu pour faire prendre vie au tout bidule, quoi. Donc, une fois qu'on a du scotch, il faut quand même que ça tienne, et que ça démarre, et que ça fasse des choses. Et c'est là où on voit un petit peu l'expérience, quoi. Et puis, bah, au final, donc, beaucoup de compétences requises, de la patience et des talents de haute cuisine, parce que finalement, c'est vraiment de la cuisine, tout ça, quoi. L'avantage, c'est que c'est vrai que, enfin, moi qui suis très mauvais cuisinier, autant les mix embarqués, ça va. L'avantage, c'est que c'est vrai que c'est une des rares matières où on peut vraiment encore faire les choses de A à Z, où on peut avoir le contrôle de ce que l'on fait. C'est-à-dire, c'est pas comme du Java où on a une espèce de pile virtuelle avec 128 appels où on sait pas trop où ils sont, quoi. C'est pas comme du .NET où on sait pas trop où ça part, où ça revient, et puis ça fait des choses, mais on sait pas trop. Ou du HTML où quand vous cherchez de la documentation sur Internet, vous avez trois types qui vont vous dire, trois types, c'est trois Kevin, qui vont vous donner trois solutions différentes et il y a la petite qui marche. C'est quand même terrible, hein. Alors, futur proche et lointain. Alors, futur proche et lointain de Linux, évidemment, de Linux dans l'embarqué et de Gibb dans l'embarqué. Alors, l'amélioration des performances. Alors, l'amélioration des performances, c'est vraiment le sujet permanent. Dernièrement, donc, les sujets vraiment importants, c'est la préemptibilité. La préemptibilité, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir interrompre les tâches, y compris les tâches du noyau lui-même, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Alors, le problème de noyau, c'est qu'en fait, il y a des tâches, des micro-tâches, on va dire, systèmes qui doivent être atomiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interrompre. Le but, c'est de réduire au minimum possible pour pouvoir qu'elles soient le plus rapide possible, pour pouvoir réinterrompre plus loin. C'est un très très vaste sujet qui date maintenant, ça fait 6 ans que sont dessus. Alors, vous avez donc le scheduling. Le scheduling, c'est donc la manière d'ordonnancer les processus. Pareil, c'est un grand sujet. L'année dernière, on a changé encore le scheduler pour qu'il soit plus réactif, notamment pour l'embarquer, ça a apporté des choses. Le support matériel qui est évidemment en constante évolution et qui n'arrête pas de grossir. Un sujet qui, moi, que je trouve très intéressant, c'est la paravirtualisation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça permet donc de mettre plusieurs kernels, plusieurs OS sur la même plateforme hardware ou sur plusieurs plateformes hardware à la fois en faisant croire qu'on est sur la même. Alors, exemple, mettre du Linux et du Windows sur la même CPU, c'est possible. Mettre deux Linux ensemble, un qui va s'occuper de la sécurité et qui va être très fermé, et l'autre qui va s'occuper d'une interface graphique, c'est possible. Mettre un Linux et puis à côté un driver pour Linux, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans Linux, il est à côté, ils vont partager des informations de l'un vers l'autre, par exemple pour pouvoir éviter des problématiques, un, de portabilité parce que le driver il est fermé ou c'est trop compliqué de porter, donc du coup il ne marche plus dans un nouveau Linux. Un peu le mettre à côté, ou deux de licence où on se dit, ben ouais, je ne veux pas le mettre sous GPL, donc je vais être bloqué, donc je le mets à côté, comme ça, ben voilà, c'est une méthode comme une autre, hein, on va dire. Ou encore, ben, la paravirtualisation peut servir aussi à faire du portage, je l'avais parlé tout à l'heure, par exemple pour la radio chez BMW, le poste radio qui fait pas que la radio, c'est parce que je crois qu'il y a carrément des commandes de bord à l'intérieur, c'est un truc de malade cette radio. Et il fait notamment le GPS, mais enfin, il fait beaucoup plus que ça encore. Il était sous VXWorks. Ils ont voulu passer sous Linux, mais ils ont eu une période où ils ont eu les deux ensemble. Sur l'iBox, d'ailleurs, c'était pareil. Ils avaient les deux à un moment donné, parce qu'ils ont migré trop vite et le truc ne marchait plus, donc du coup, ils ont fait une machine arrière. Ils ont eu les deux, avec une solution maison totalement crasseuse, mais c'est pas grave, ça c'est le goût du scotch. Et puis après, ils sont passés sous Linux, 100%. Alors, après, développement durable. Développement durable, c'est un truc qu'on vient de voir apparaître, c'est un sujet dans l'embarqué, pas seulement dans Linux. Et c'est vrai que j'ai vu un ami récemment qui était un petit peu dans Linux embarqué et qui vient de faire un consortium de Linux développement durable. C'est un petit peu aussi le retour de la domotique en fait. Vous savez, la domotique, on nous en rebat les oreilles depuis 15 ans, on ne voit rien venir. On avait parlé de. Comment ça s'appelle ce système là, zut, j'ai oublié son nom en plus. Le truc qui permet de gérer le multimédia dans toute la maison. Grosso modo, ça faisait 2 ans qu'on en parlait, maintenant on le voit apparaître un petit peu. Non.
C'est la conférence la semaine dernière.
Non, c'est pas ça, non. C'est un truc, c'est un mot acronyme. J'ai oublié le nom.
DLMA.
DLMA, merci. Wow, génial. Vous savez qu'elle est bibliothécaire, elle est géniale. Ouais, c'est DLMA, merci. Donc ça permet de gérer en fait donc, tout le multimédia dans la maison, etc. Donc le truc est génial, mais on ne le voyait pas apparaître. Là, on le voit, mais on voit des systèmes compatibles DLMA qui apparaissent. Puis, enfin, retour dans nos boutiques aussi, enfin, pour fermer les volets lorsqu'il fait chaud, les ouvrir lorsqu'il fait froid, etc. Vous voyez, ce genre de bêtises-là. Finalement, on se dit, ah mince, ça pourrait faire économiser d'énergie, et donc du coup, développement durable, c'est super à la mode, donc c'est en train de revenir en fait. Donc peut-être que la domotique va enfin exister, depuis qu'on nous renvoie les oreilles, grâce à cette problématique-là. On a parlé du développement durable, notamment dans la conférence, enfin, il y a une table ronde spécialement dans la conférence embarquée, c'était les assises franco-allemandes de l'embarquée exactement, qui s'est passée au ministère de l'Éducation nationale. Et donc vous avez un long compte rendu, un très très long compte rendu sur mon blog pro. Les assises franco-allemandes de l'embarquée. Il y a un compte rendu sur mon blog, de toute façon il y a mon blog pro à la fin. Venez sur mon blog. Alors, certification aussi. La certification est un nouveau sujet qu'on a vu apparaître il y a moins d'un an et qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la certification, c'est que c'est extrêmement cher. Et le but, c'est de pouvoir dire certification de fonctionnement, mon truc il va marcher, il va planter. Et puis certification aussi de sécurité, sécurité de fonctionnement, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les DO78. B, C qui vient d'apparaître, le CMMI aussi, etc. C'est-à-dire en fait de pouvoir assurer que le machin il ne va pas tuer des gens lorsqu'on va le mettre sur un avion, grosso modo. Mais on ne mettra pas Linux sur les avions, si en fait, si on va mettre Linux sur les avions, et je ne peux pas vous en parler. Donc c'est un truc qui est assez nouveau et qui risque de monter. Notamment, on vient de voir, il y a un projet qui a été initié par Adacor. Pouvoir faire de la certification open source. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la certification, c'est que le problème qu'on a majeur, c'est qu'il faut dire, voilà, j'arrête une version des sources, et pendant 5 ans, on va la traumatiser. Alors, par exemple, ça va être, comment ça s'appelle déjà, aux États-Unis, la NSA qui va le torturer pendant 3 ans, il faut 3 ans pour qu'il puisse certifier EAL, EAL5, EAL6, EAL7, EAL7+, machin, couffin, il y en a vraiment, il y en a 7, il faut que ça arrête à 7. EAL, donc ça prend en tout 5 à 6 ans. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, vous sortez votre produit, vous dites ça, celui-là est certifié, c'est le produit que vous avez fait il y a 6 ans. Vous voyez, vous avez déjà 6 ans de retard au niveau de la techno. Évidemment, votre produit a évolué entre temps, mais votre produit qui a évolué, c'est pas celui qui a été certifié. Donc vous avez un problème. Et le point de source, évidemment, à ce niveau-là, évolue tout le temps. Et sans compter qu'en plus, on n'est pas dans une problématique de bien finaliser le machin pour que ça puisse être certifié. Donc leur idée, grosso modo, c'est de lancer une espèce de consortium qui puisse évoluer en fait en même temps que les sources pour pouvoir en fait faire des cycles plus courts de certification. Donc ça a été lancé par Adacor et j'ai oublié le nom, j'en parlerai peut-être sur mon blog comme ça, voilà, ça vous fera rebondir dessus. Si, j'en ai parlé sur mon compte-rendu de la conférence RTS de cette année. Donc vous cherchez le compte-rendu de mes conférences sur mon blog pro, ce sont des articles qu'ils font, enfin vous venir pour les lire, mais voilà, c'est compté. Après, donc on parlait chez Linux de driver user space, alors on en parle depuis au moins 3 ans. Je pense que c'est un petit peu comme DuckNugget 3D, on ne le verra jamais venir, c'est un petit peu du vaporware en fait. Ceci dit, on a vu quand même des implémentations à coup de bout de scotch pour voir ça. Notamment, alors il y a le Fuse, le File User File System, qui est un petit peu dans cette idée-là, qui est un machin un petit peu crassouillé mais qui marche quoi. Sur le hard, par exemple, le hard, ils ont un truc absolument génialissime, ça s'appelle les translateurs. Ça, le translateur, oui. C'est vraiment génialissime, machin, dans l'idée. Bon, après, évidemment, dans la pratique, c'est autre chose, mais dans l'idée, en tout cas, c'est vraiment génial, quoi. Mais le problème des drivers user space, c'est que ça y a beaucoup de problématiques qui sont très compliquées au niveau technique, et notamment après, les problématiques de lenteur. Alors, on parle aussi d'une API générique, parce que le problème de Linux, c'est que ça évolue beaucoup, donc l'API évolue beaucoup, donc on a des problèmes de portabilité, notamment de portabilité des drivers. Lorsqu'on fait son driver chez soi, à la maison, c'est mal, évidemment, mais enfin, si on le fait dans Linux, quoi, je veux dire. On le fait chez soi, donc à la maison, je veux dire, dans sa boîte, parce qu'on a par exemple un hardware matériel à supporter, donc on fait son driver, et puis hop, il sort une nouvelle version de Linux, on veut le mettre dessus, mais ça fait court, ça marche pas. Parce que on a changé beaucoup de choses, notamment pour cette carte-ci, j'ai porté le noyau Linux 2.25, et puis sur le Linux 2.27. Moi, je me dis, chouette, je vais faire le portage, je cherche mes petits, mes petits, ils ont tous changé de place. Le reste des courses, ça m'a pris un temps fou. Alors que pourtant, elle est entre 2.5.25 et 2.7.27. Vous voyez, il n'y a que deux sorties entre elles. N plus 2, quoi. C'est pas grand chose. Donc évidemment, l'API générique, c'est quelque chose qui nous est promis depuis pas mal de temps et on ne la voit pas venir non plus, en fait. C'est très compliqué aussi. Parce qu'évidemment, ça voudrait dire qu'il faudrait figer des choses. Et figer des choses dans Linux, c'est pas trop dans l'esprit. Alors après, l'avenir certainement des set-top box. Ceci dit, Microsoft fait encore des choses sur les set-top box, encore de la concurrence. Mais bon, c'est quand même majoritairement du Linux. Notamment, on peut voir, sur les disques de multimédia, il n'y a que du Linux. D'ailleurs, comment est-ce que vous savez qu'il y a du Linux sur une set-top box ou sur un disque de multimédia? Ça supporte le hog. Tout le monde se fiche du personnel du accessoire, enfin, les libristes, quoi. Parce qu'ils savent, ou les gens qui aiment vraiment la musique. Le tout commun, là, le tout venant, a du MP3. Donc évidemment, supporter le hog, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre des bibliothèques, ça veut dire qu'on va payer un ingénieur. Ne serait-ce que payer un ingénieur une journée, ça veut dire qu'on va perdre une journée sur le projet, ça veut dire qu'on va perdre aussi des sous. Et donc évidemment, on le fait que si c'est aussi simple que de dire je prends ma librairie hog et je vais glisser déposer. Quoi. Et puis les téléphones, alors les téléphones, c'est le truc où on dit qu'en 2012, quasiment tous les téléphones sont sur Linux. On l'a dit depuis 2 ans, mais bon, c'est pas un trop ensemble, encore un petit peu de temps pour vérifier. Mais enfin, les boules de cristal, les gens qui font des audits et compagnie disent que c'est bon, c'est bientôt. Et puis, ben voilà, la conquête du monde, hein, Linux dans le monde entier. Oui. Poser des questions, ça fait combien de temps que je parle encore? 17h et des bananes, mon dieu. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, on va plus vite là, sur la fin, parce que de toute façon, vous avez déjà la bibliographie qui a été distribuée à l'entrée. Alors, juste pour vous parler d'un truc, la conférence sera en ligne, ça c'est sûr, elle sera au moins sur mon blog pro dans tous les cas, donc vous avez l'adresse à la fin, mais vous me direz s'il faut avoir les slides pour voir le truc de mon blog pro, bah, c'est un petit problème. Oui, si, mais de toute façon, sur les annonces Linux Center et compagnie, vous avez le lien là chez moi. Donc de toute façon, vous pourrez vous y retrouver, mais c'est simple. Alors, la BeagleBoard, vite, je vous parle de la BeagleBoard. La BeagleBoard, c'est fait par Texas Instruments. Comme je vous le disais, Texas Instruments, ils ont découvert Linux récemment, ils ont trouvé que c'était génialissime, ils se sont lancés dedans encore perdus. Ils ont lancé ce machin-là, qui est vraiment dans l'esprit ouvert. Ouvert. Vous avez les spécifications du bidule, vous pouvez le hacker comme vous voulez. Vraiment, le but, c'est de faire votre truc chez vous. Alors, vous avez tout un tas de sorties, notamment une sortie écran, parce que vous pouvez le sortir sur un moniteur. De PC quoi, et non pas sur un lecteur LCD qui coûte 450€ minimum, donc forcément là c'est pas accessible. Le truc coûte 149$, ce qui au prix au cours du dollar doit faire environ 60€, non peut-être pas 120€, allez 100€, c'est mon dernier prix, je sais pas trop où ils en sortent le dollar, de toute façon on est surévalué depuis pas mal de temps. Alors donc dessus il y a quoi, il y a NoMap 3530, en fait c'est quoi, c'est du Cortex A8. Le Cortex A8, c'est une tuerie absolue, c'est un machin de malade. Vous faites goûter un Linux en moins de 2 secondes dessus. C'est vraiment de la folie. Vous avez dessus de l'USB on the go. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, vous pouvez brancher une clé USB dessus, tout comme vous pouvez brancher sur un PC. Vous pouvez le voir comme une clé USB, quoi. Par exemple, téléphone portable, vous savez ce qui se passe. Vous le branchez, vous pouvez le mettre en mode clé USB, vous voyez l'intérieur du téléphone portable. Donc c'est très flexible, etc. Donc si vous voulez travailler chez vous, par vous-même, autant ce machin-là chinois, c'est de la chinoiserie et ça coûte 2 fois plus cher, quasiment. Autant ce truc-là, en fait, c'est sorti super récemment, c'est-à-dire il y a un petit peu moins d'un an, et c'est vraiment génial, quoi. Enfin, manifestement, je l'ai vu tourner, hein. Je l'ai pas testé par moi-même, mais je l'ai vu tourner, donc voilà. Alors, vite fait, donc, dans les bouquins, vous avez, pour le néophyte, Linux embarqué par Pat Fischeux, qui est vraiment très très bon, un exercice de vulgarisation, mais ça va pas super trop loin en technique. Ceci dit, Pat Fischeux, il est vraiment génial pour bien expliquer les choses très clairement. Vous avez pour les gens qui veulent faire du système, alors là, vraiment du vrai Linux embarqué pour de l'ingénieur, du dur et pour les gens barbus, Building avec Linux Systems, qui est fait, donc, alors à la base le type était tout seul, ils sont une deuxième version, maintenant ils sont 4, 3 pardon, oui non 4, ils se sont reproduits. Il y a même Philippe Jérôme qui fait Xenomail, et qui a écrit certainement la partie Xenomail du bouquin. Là c'est du gros bouquin, 464 pages, c'est super austère, hein. Enfin, autant le Linux embarqué c'est bien, autant celui-là vous pouvez pas forcément le lire de A à Z comme ça, quoi. Il fait un peu mal à la tête. Vous avez le Embedded Linux Primer aussi qui est très très bien, et notamment qui apprend à lire des schémas hard et qui apprend à, un petit peu à poser des problématiques d'embarquer. Alors ça c'est en anglais, les deux, il n'y a pas de traduction française. Vous avez donc Understanding Linux Kernel qui lui a été traduit en français en revanche. Pour le kernel Linux, il fait 920 pages, il fait super mal la tête. Au bout de 10 pages d'affilée, vous avez 42 fièvres, c'est terrible. Linux Driver est peut-être pire encore. Mais c'est le seul truc qui existe. Alors il y a pour ça aussi, c'est ça. 3, voilà, je suis bon. Il s'est envoyé une version Ah, oh, zut alors. Alors voilà, vous l'avez aussi en ligne. Si dit, c'est bien d'acheter les bouquins parce que ça rapporte 2€, quoi que 2€, ils sont 3, donc ça leur rapporte 50 centimes d'euros chacun. Non, évidemment, on n'écrit aucun pour la gloire avant tout. Donc Linux Database Drivers, qui est un petit peu le seul en fait qui explique vraiment bien comment faire des drivers Linux. Sinon, bah, il faut prendre une formation. Une formation. On en donne d'ailleurs à l'Inagora des formations Linux Driver. Ça coûte cher. Hein. Enfin, c'est parmi les formations les plus chères. La formation la plus chère, c'est apprendre à programmer en C, c'est pour 3 600 €. Et une formation Linux Driver, il faut compter 2 800 à 3 500 €. Linux Embarqué, c'est pareil. C'est le même nombre de prix, il faut compter 3 000 €. Alors, programme sans système en C sous Linux, ce livre-là est une tuerie absolue, il faut absolument l'avoir chez soi. Voilà, faire vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Celui-là, c'est un livre pour les barbus aussi. Il est vraiment bien parce que en fait, c'est le seul qui vraiment apprend à lire le schéma de CPU de manière complète, programmer en milieu contraint, croisé, Linux, ICOS. Alors, par contre, juste en C. Le problème, c'est qu'il est vraiment assez court, il coûte super méga trop cher. Mais c'est pas la faute de Hero, il faut que je l'aurais demandé. Mais il est vraiment très bien, donc si vous faites des trucs. Vous avez les grands classiques, architecture de l'ordinateur, Tannenbaum, je le présente même pas. Vous avez Linux Administration pour ceux qui voudraient rester quand même un petit peu en surface des choses. Linux Administration est vraiment génial ce bouquin pour tout le monde, embarqué ou pas embarqué. Je l'ai mis dans l'embarqué, pourquoi ? Parce que finalement dans l'embarqué, à la fin, on a trouvé une problématique de Linux, où sont le fichier de conf dans sa FTC, qu'est-ce que qui fait quoi, etc. Et ce truc-là, ben, c'est plus complet. Clairement, c'est plus complet. Il est vraiment très bien fait. Et puis enfin sur le web, donc vous avez une petite webographie. Donc vous avez cité Linux.org qui est un wiki qui a plein de choses dedans. Linux Devices qui est une plateforme de news sur Linux et qui recense énormément de projets Linux. Vous avez donc kernel.org, alors attendez, c'est quoi ça? ATWiki, ça c'est le wiki pour le temps réel. Alors Linux c'est pour l'embarqué, ATWiki c'est pour le temps réel. Kernel.trap qui évidemment donne les news du noyau, et puis Kernel Newbies qui donne en fait aussi pareil les news des noyaux lorsque le nouveau noyau sort et ce qui a été rajouté, grosso modo, ce qui a été fait dessus. LXR.linux.no, donc je vous en ai parlé, ça permet de naviguer dans le kernel. LinuxDrivers.co, alors sache Kernel Maps. Alors Kernel Maps, c'est quoi en fait? C'est un truc qui vous permet de voir en JavaScript, vous avez une vision du kernel, et vous avez donc tous les drivers, etc. Et vous avez des liens entre eux, vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez dézoomer, c'est fantastique. Allez le voir ce machin-là, c'est vraiment les trucs qui ont fait ça, ils n'ont pas du social non plus. Mais c'est vraiment génial. Alors, vous avez encore Free Electron. Alors, Free Electron, ils font donc des formations. C'est un petit peu la concurrence de l'Inagora, mais comme ils sont dans le sud de la France, ouf, on est sauvés. Et ils sont deux, ils sont vraiment très bons. Notamment Thomas Petazzoni qui est à la prime, qui est au CERN de la prime même. Et Michael Oppenheimer, voilà, je vais corriger beaucoup. Et alors, ce qui est bien sur leur site web, c'est qu'ils mettent leur formation en ligne. Alors, vous avez aussi des formations en ligne sur l'Inagora, mais je crois qu'il y a que Linux en réel. En revanche, chez eux, vous avez Linux embarqué et Driver, je crois.
Et développement
durable
aussi.
Développement durable, vous faites le truc ?
Je
ne
sais pas si c'est très
récent. Mais... C'est pas possible. Ah, là, vous voyez, c'est fou, je ne sais même pas. C'est ça la mode. De toute façon, Linux, c'est une question de mode aussi. Je veux dire, pourquoi on met Linux dans l'embarqué ? Parce que c'est à la mode. Il y a des gens qui font du Linux dans l'embarqué et ils ne se posent même plus la question. Quoi. Ils disent, parce que tout le monde met du Linux, quoi. Et c'est un petit peu mouton. Donc, vous avez dit, c'est un petit peu inertiel. Donc, au bout d'un moment, dès que ça tourne, vous ne posez trop de questions. Quoi. Donc, finalement, il y a parfois des fois. Il y a des gens qui essaient de s'implanter, essaient de mettre du Java, du full Java. Donc vous n'avez plus d'OS. C'est Java qui fait tourner des applications en fait qui sont des threads dessus. Et donc en fait c'est de l'applicatif vraiment métier quoi, à ce niveau-là. C'est-à-dire vous dites voilà, il faut que je réponde à une problématique. J'ai pas besoin d'avoir des drivers démentiels, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs softs qui tournent. Ben, je vais faire un soft complet. Il tourne entièrement sur Java. Et donc je mets du Java directement, c'est la machine virtuelle Java qui sert d'OS. Ben, c'est des trucs qui sont pas si bêtes que ça, quoi. Mais leur but, en fait, c'est de dire qu'il n'y a pas que Linux dans la vie. Vous voyez, c'est... voilà. Alors, encore, OpenEmbedded.org, donc ça c'est OpenEmbedded, MontaVista, Realtime Linux Foundation, je ne sais pas trop comment se porte cette fondation, parce que c'est vrai qu'elle commence un petit peu à dater, il faudrait voir si c'est même encore vivant, en fait. Et puis, donc, mon blog, voilà, il est là. Hop, gblanc.blogs.linagora.com. Voilà. Donc dessus vous avez pas ma vie, vous n'avez pas de photo de mes chats, parce que je n'ai pas de chat, je déteste les chats. En revanche, vous aurez donc des comptes rendus de conférences, vous aurez des fois lorsque je tombe sur des codes vraiment très crasseux et que ça vaut le détour,
Le résumé de cette conférence.
Et vous aurez certainement les slides, oui, parce que d'habitude je mets toujours les slides dessus, donc je mettrai mes slides disponibles dessus. Oui, clairement. Vous avez déjà les scènes en fait, de la conférence que je vous ai donné pour Paris UX et pour Paris 8, qui était très proche évidemment, parce qu'on ne va pas s'amuser à écrire les slides à chaque fois, c'est quand même un travail qui est très long. Mais évidemment, je les remettrai dessus. Voilà. Et puis, ah oui, puis en kiosque, alors hop, Linux embarqué, vous trouvez ça dans Linux Magazine, il y a beaucoup de hors-série, des choses comme ça, qui sont très bien foutues. Le problème, c'est que, enfin, même en étant ingénieur, parfois vous avez du mal à comprendre. C'est vraiment très pointu. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, que plus ils faisaient des choses pointues, et plus ils en vendaient. Donc, du coup, ils sont partis dans un cercle, plutôt c'est vicieux, vertueux, et alors ils sont en train de tomber dans du truc quoi. Enfin, de toute façon, maintenant, plus personne ne peut comprendre Linux Magazine en entier déjà. Ça c'est sûr, ça fait quelques années maintenant, mais alors même pas moi, des fois je dis des trucs, je fais des mecs là, ouais. Alors on a des mots, mais en fait des mots, ben, c'est dommage, parce que franchement ça marchait bien, parce que je l'étais ce matin chez moi, mais évidemment j'avais pas de console, donc évidemment si j'ai pas de console à vous montrer, c'est un peu nul quoi, mais je sais que ça marche. Alors en gros l'idée c'était quoi? C'était que ben, donc, j'ai ma carte de développement machin chinois, là, de chez Ambest, qui est du ARM, qui tourne sur un processeur Samsung, S3C2440, qui est un bon processeur. C'est de l'ARM 9 avec de l'ARM 7 dedans. Enfin, c'est un vrai merdier encore, une espèce de mélange hybride. Grosso modo, le but c'était quoi? C'était d'utiliser ça, hop, qui est un câble JTAG pour les pauvres. Alors pourquoi ça? Parce que le câble JTAG normalement ça coûte très cher, dans le style 2000 €, facilement, un câble JTAG professionnel. Là, c'est un câble JTAG pour les pauvres, ça coûte 30 €. C'est tellement pour les pauvres qu'en fait, l'adaptateur, vous voyez, c'est mon stagiaire qui avait dû faire une espèce de bricolage pour pouvoir, pour qu'on puisse l'utiliser. Alors du coup, vous pouvez prendre la version à 100 €, c'est vendu sur le site d'Amontech, A-M-O-N-T-E-C. Je raconte le portage de toute façon de cette carte-là que j'ai faite pour Linux, c'était très épique, du coup, je l'ai inventé sur mon blog. Ça permet de faire quoi? Ça permet de communiquer directement avec le CPU et de pouvoir balancer notamment des choses directement dans la mémoire vive. En l'occurrence, je balance Linux dans la mémoire vive directement, tac. Et après de ça, je boot dessus. Ça boot donc depuis la mémoire vive. Et puis le Linux, lorsqu'il démarre à la fin, il arrive à sa page d'initialisation. Et là, il va chercher par NFS, par protocole de communication de partage de fichiers, il va télécharger sur mon PC le système. Il lance le système depuis mon PC sur lui-même, et donc vous avez un prompt shell ASH qui écrit yes, et voilà, c'est beau. Donc vous pouvez très bien imaginer, hein, vous voyez, c'est comme si vous avez. Voilà, quoi, ça. Voilà. Je peux vous montrer les traces en fait du truc, si je vais être regardé. Je vais essayer vraiment ce matin, je ne regarde pas. Donc vous voyez ici, ça marchait vraiment parce que j'ai les traces en fait du NFS. Donc je sais qu'il communique par NFS. Donc si il communique par NFS, forcément ça a marché. Donc ici à côté vous avez, hop là, ben voyez, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai lancé donc mon truc pour gérer le câble JTAG qui s'appelle OpenOCD, qui est un logiciel libre pour gérer le JTAG. Et ici, ben vous voyez que donc ici je lance, donc j'envoie mon Linux à l'adresse qui est ici. Alors comment est-ce qu'on faisait cette adresse là? Eh bien un peu au pifomètre, mais avec intelligence. Je vais tout ça sur mon blog, c'est un petit peu long. Vous voyez que donc, ici, il a changé les sections. Ici, eh ben, on s'amuse à mettre les registres à la main, à la mine, au bon endroit. Alors ici, vous voyez, il y a des trucs un petit peu cabalistiques. Ce 362, ça veut dire, c'est une carte avec un S3C2440 de type Ambest. Vous avez ça évidemment dans le Linux, c'est dans le device.h, un truc comme ça. Donc vous avez ça dans le .h en fait, et donc d'habitude, c'est le bootloader qui fait ça. Donc en fait, là, je fais le boulot du bootloader, parce qu'il ne passe pas par le bootloader, c'est moi qui vais booter. Donc vous voyez ici en fait, R2 c'est quoi? Ça veut dire la ligne de commande, il n'y a pas de ligne de commande, et en fait la ligne de commande est dans le kernel, elle est compilée en dur. Et ici, ben, je dis d'aller travailler, d'aller ici, hop, c'est-à-dire en fait je vais les registres qui vont servir en fait à mettre la pile. Je dis qu'en fait il va falloir commencer ici, et après je fais un coup de continue avec mon GDB, et quand je dis de continuer, ben, du coup il continue là où il y avait Linux, ça tombe bien, et plouf, ça boot. Voilà, en fait je fais le boulot du bootloader, vous voyez. Voilà. Pour remettre la lumière, parce que je peux dire tellement de gens qui sont endormis. C'est vrai que c'est pénible en plus. Alors, quelqu'un qui parle pendant 2 heures dans le noir.
Ouais. Oui, bonjour. Des questions, questions.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'avant, il est déjà 17h les manades, mais 17h25. Encore obscur, parce que j'ai trop parlé encore.
Vous avez parlé tellement vite avec la résonance, ouais. On n'a même pas compris le cordon.
Le,
Alors,
Oui. Alors, en fait, alors évidemment, oui, effectivement. Alors, je vais vous montrer ça.
Essayez de parler plus lentement parce qu'il y a de la résonance.
D'accord. Alors, donc, en fait, ici, donc, vous avez un câble de type Digitech. Alors, d'un côté, vous voyez, c'est un connecteur assez simple, quoi, hein, un petit machin avec, je crois que c'est 24 pins, comme ça. Vous voyez. Et de côté, alors du coup, donc évidemment, il y a un petit coup de colle là. Et d'autre côté, donc, on a l'intelligence qui est sur ce machin-là, et qui sont en fait sur de l'USB. Alors les câbles Digitech, vous avez ceux qui se branchent sur l'USB et ceux qui se branchent sur l'Ethernet. Alors l'Ethernet, c'est quand même le truc qui est plus cher et qui est beaucoup mieux. Donc voilà, en l'occurrence, c'est un câble pour les ports. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Je branche mon câble USB. Vous savez, c'est un câble d'appareil photo, quoi, donc ligné USB sur USB. Donc ça se branche dessus. Hop. Ça se branche sur PC, donc normal, tac, branche dessus. Et après ici, ça se branche sur quoi? Ça se branche en fait sur la carte. Alors c'est-à-dire que si vous regardez bien la carte, attendez, on va peut-être faire un truc. Je vais essayer le truc que du coup je n'ai pas fait. Ah, ne bougez pas.
Bon, en attendant, je vous dis que ceux qui veulent continuer à discuter, tout ça, il y a un pot à la librairie. Donc pour les discussions informelles, on peut aller là-bas. Mais si vous avez des questions...